Unaforis.
Du côté de l'Unaforis. Un acteur de l'économie sociale et solidaire.
Unaforis.
Sur le trottoir d'à côté.
La web radio de l'intervention sociale.
Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale.
Unaforis.
Sur le trottoir d'à côté.
Bonjour à toutes et à toutes, merci de m'accueillir. Mon propos va peut-être être structuré un peu différemment de celui de mon collègue. En ce sens, évidemment, j'ai travaillé votre document. Il est d'ailleurs martyrisé, si je puis dire. Mais en même temps, ce que je trouvais peut-être intéressant, c'est de balayer un peu la perspective que nous tentons d'ouvrir, puisque mes ouvrages ont travaillé aussi avec des équipes de recherche dans différents domaines. Ce que j'appelle les récits contemporains de la modernité, que nous puissions balayer un peu ça, justement autour de la question de la prospective d'ailleurs, et qu'ensuite on inverse un peu les choses, c'est-à-dire qu'on reprenne éventuellement thème par thème et que vous-même vous réagissiez en disant en quoi cette montée un peu en hélicoptère, j'espère que je ne vais pas vous faire monter trop haut parce que moi-même j'ai parfois le vertige de la hauteur à laquelle montent mes concepts, peut-être avec cette remontée en hélicoptère. Peut-être que ça viendra, en tous les cas, j'en suis convaincu pour un certain nombre de thèmes, peut-être réinterroger un peu ce qui est écrit là. Peut-être d'abord, deux mots sur la CATO quand même. La CATO, c'est un périmètre important, c'est 30 000 étudiants, c'est 1 000 lits d'hospitalisation, puisque nous avons un caractère hospitalo-universitaire, puisque nous avons une dérogation pour former les médecins, nous avons une faculté de médecine. Alors nous sommes associatifs privés non lucratifs, monsieur y faisait référence tout à l'heure, d'ailleurs c'est pour ça que je dis souvent à mes amis socialistes de la mairie de Lille que mes hôpitaux sont plus socialistes que les leurs, puisque je n'ai ni surhonoraires, ni secteur privé, et en plus nous équilibrons en faisant un peu la course en tête sur les hôpitaux au niveau des maladies nosocomiales. Donc en plus on ne peut pas dire que nous sommes mauvais, et en plus nous avons le taux de CMU le plus élevé de France avec notre hôpital Saint-Vincent qui est devant Marseille. Donc on ne peut ni dire qu'on ne soigne que les riches, ni dire qu'on a un secteur privé qui fonctionne, puisque nous on est à la T2A, hein, intégralement à la T2A, et pourtant nous équilibrons. Voilà, donc c'est un point assez intéressant. 30 000 étudiants, je le disais, deux business schools triple crown, ce qui est unique au monde, il n'y a aucune université qui a deux business schools dans le top 100 du Financial Times, et en même temps de très gros projets de transformation, très profonds, puisque nous avons lancé un plan de transformation de fond en comble de l'université, à cause du changement de paradigme. Alors vous en parlez d'ailleurs dans l'apprentissage, on pourra en dire deux mots. C'est un plan de 200 millions d'euros sur 8 ans, donc évidemment ce sont des sommes considérables. On nous demande souvent d'ailleurs où on les trouve, et je réponds que nous, les catholiques, on réinvestit tout ce qu'on perd, c'est un principe économique historique chez nous, et on a les cierges à Saint-Rita, qui est la patronne des causes perdues. Voilà. Peut-être à titre d'introduction, une fois cette... Oui, j'ai oublié de dire que nous étions opérateurs de deux quartiers de ville expérimentales, on pourra en parler d'ailleurs, hein, sur les nouvelles formes de solidarité. Humanicité, hein, 5000 habitants, 2500 personnes handicapées, mentales, sociales, physiques, qui vivent avec 2500 personnes comme vous et moi. Et nous en avons un second qui est bientôt terminé sur l'intergénérationnel, porte des postes à Lille, puis un troisième en projet en zone complètement rurale où nous voulons expérimenter ce qu'on appelle un living lab, c'est-à-dire comment peut-on avoir une approche intégrative, c'est-à-dire santé, sociale, dépendance, en zone rurale, avec des chercheurs évidemment qui travaillent sur ce living lab, mais pas dans la recherche traditionnelle, dans une recherche-action, une recherche d'intervention. Voilà. Peut-être à titre d'introduction, parce que c'est marqué prospective en haut de votre document, donc je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça, parce que en 83, j'étais dans le top 100 de France Télécom. Après, c'est vrai, je suis passé à la NPE parce que j'ai préféré y aller tout de suite du bon côté que 5 ans après de l'autre côté. Et donc, je fais partie de ceux qui ont validé un titre dans le journal Le Monde, qu'on peut retrouver d'ailleurs, qui disait « Internet, 0 milliard de bits, 0 milliard de chiffre d'affaires, pas de modèle économique, voué à l'échec, le Minitel est l'avenir ». Alors ça vous en dit long sur mes capacités prospectives et devrait vous amener à exercer votre légitime méfiance sur ce que je vais vous raconter à partir de maintenant. Alors pourquoi je vous dis ça, au-delà de la conviction que j'ai qu'il n'est pas nécessaire d'être triste pour être efficace, cette idée que je développe tout au long de mes ouvrages et des travaux. Encore hier, on avait un séminaire assez extraordinaire, vous parliez d'immigration, nous avions Michael Doyle, qui est quand même un des monstres du sujet aux États-Unis à Columbia, et Mireille Delmas-Marty, Pascal Lamy, etc., dans un séminaire justement sur cette question des migrations. Et je pense que ce que je développe un peu, c'est cette idée qu'en fait, tous les débats sur lesquels nous sommes et tous les changements de paradigme auxquels nous sommes confrontés, c'est pas un hasard, c'est vraiment le fait que nous sommes en train de nous déplacer de ce que j'appelle de l'inconnu à l'inconnaissable. C'est-à-dire que nous avons appris à maîtriser l'inconnu, puisque par définition, l'avenir est quand même que partiellement connu. L'inconnaissable, c'est lié au fond à l'explosion à la fois de la complexité, l'explosion de la systémique, et y compris de l'approche un peu holistique des choses. Je vais prendre un exemple. J'étais à Bruxelles il y a 15 jours, j'intervenais dans un séminaire de grands professeurs et de médecins, des gens de la médecine et de la santé. Et un des professeurs me disait, vous savez, monsieur, tant qu'on regarde le fonctionnement du corps comme étant des agrégats de cellules qu'on appelle des organes qui échangent entre eux un certain nombre d'éléments par 5 grands réseaux que sont le réseau sanguin, etc., nous sommes dans des formes d'inconnus, mais nous avançons sans cesse et la science nous permet de progresser. Dès que nous regardons le corps humain, comme il est nécessaire de le regarder aujourd'hui, c'est-à-dire d'un point de vue intégratif, comme étant un ensemble d'interactions qui vont bien au-delà de l'interaction entre les organes, on vient de découvrir des interactions entre nos neurones et les 5 kilos de bactéries que nous avons dans l'intestin, c'est-à-dire dès qu'on a une approche holistique du fonctionnement du corps, nous entrons dans l'inconnaissable. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Et donc on voit bien qu'en fait, le déplacement dans lequel nous sommes, c'est comment apprendre à vivre dans l'inconnaissable. Alors, c'est quoi la différence? Je faisais une série de conférences à l'île de la Réunion il n'y a pas très très longtemps, et je leur disais, au fond, si on vous annonce un ouragan d'une puissance jamais connue, vous êtes dans l'inconnu. Mais vous savez ce qu'est le vent, même si le vent peut faire 2000 km/h, si les grêlons, la grêle peut faire 5 kg, vous savez ce qu'est le vent et la grêle. L'inconnaissable, ça veut dire que nos paradigmes, c'est-à-dire nos modèles mentaux, ne nous permettent pas de penser ce qui est en train d'advenir, parce que nous sommes en train de rentrer, un de mes maîtres à penser, évidemment, Edgar Morin, nous sommes en train de rentrer dans la complexité. Et donc, nous sommes en train de rentrer dans l'inédit. Ce qui fait que tout se déplace au niveau méta. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel terme de ce que vous développez. Par exemple, la compétence. Voilà. C'est un terme, c'est un piège, la compétence. Il n'y a rien de plus polysémique que la question de la compétence. Hein. Moi, je pense qu'on est déjà au-delà de la question de la compétence. Ce sera une remarque d'ailleurs, que je ferai dans votre document. On est en train de rentrer dans la compétence à être compétent, qui est déjà une autre forme de compétence. Et ensuite, est-ce que la typologie classique de la compétence, alors on connaît les grands modèles, les modèles cognitifs, les modèles de Minet, etc., est-ce qu'ils sont encore valables aujourd'hui? Quand 4600 chefs d'entreprise réunis à Bordeaux dans le cadre de l'APM où j'intervenais me disaient, monsieur, ce que l'on sent très fort, c'est qu'on a de moins en moins besoin de compétences, on a de plus en plus besoin de talent. Alors il restait à définir ce qu'est le talent, évidemment. Et c'est pas moi, chrétien catholique, qui vais vous prendre quelques références bibliques. Et donc, faire le deuil de l'extrapolation et penser agir la bifurcation, c'est un peu le thème de fond. D'ailleurs, hier, on avait un débat avec Carlos Ferreira sur la question inflexion-bifurcation. On pourra y revenir tout à l'heure. Alors, pourquoi j'ai changé, au fond, et je ne mets plus le terme prospective, même si je suis proche de Thierry Godin et toutes les équipes de l'époque du CRC qui faisaient de la prospective on dirait de façon un peu classique, c'est-à-dire au fond, on essaye d'analyser avec des regards croisés la façon dont on voit le futur. Et puis, je rappelle que lorsque Jacques Delors met en place le CRC, c'est pour essayer de planifier, c'est-à-dire d'être dans une forme de prospective planificatrice. D'ailleurs, je rappelle que nous sommes, particulièrement en Occident, nous avons une forme d'hypertrophie de l'hémisphère gauche historique, d'ailleurs moi-même, étant ingénieur de formation et commencé ma carrière dans la recherche et la topologie de réseau, je suis un hypertrophié de l'hémisphère gauche. Mais je me suis soigné à 40 ans parce que j'ai commencé à m'apercevoir que j'avais un hémisphère droit qui foutait le bazar un peu dans tout cela. Et puis surtout avec mon histoire de tout à l'heure, là, d'Internet, parce que quand je condamne Internet, je ne suis pas dans la défense catégorielle des intérêts de France Télécom à l'époque, c'est-à-dire 12 milliards à peu près dans le Minitel. J'étais absolument convaincu de ce que je disais. D'ailleurs, je me souviens toujours, ce jeune Américain, c'était les débuts de la Silicon Valley, qui était venu nous voir et qui nous avait dit « In 20 years, you will be dead. » Dans 20 ans, vous êtes mort. On l'a foutu dehors. On lui a expliqué avec quelques feutres à quel point c'était con ce qu'il nous racontait, qu'il n'y avait pas de modèle économique sur Internet, que c'était un système qui ne pouvait pas capter la valeur, et que notre bon vieux modèle, puisque nous, nous créons de la valeur à 70% à l'époque en connectant des lignes fixes à la durée, c'est-à-dire nous louons des lignes fixes à la durée pour permettre à Mme Michu de téléphoner à M. Michu, c'est 70% de la création de valeur. Aujourd'hui, c'est à peine 30%. Donc la rupture du business model a été absolument colossale. Et aujourd'hui, on voit que ça ne fait que s'accélérer, puisqu'il n'y a pas une entreprise aujourd'hui, même les gros opérateurs de l'avionique, il n'y a pas une entreprise qui peut dire qu'elle durera à coup sûr plus de 2 ans. Le nouvel entrant peut surgir de n'importe où. Il peut vous venir piquer le business là où il est rentable et vous laisser le business là où il ne l'est pas, etc. Donc on est en train de rentrer dans une volatilité absolument extrême. Et donc, de ce point de vue-là, la vision traditionnelle de la prospective, parce qu'heureusement, la prospective s'est renouvelée par rapport à ça, est en difficulté. Alors c'est pour ça que moi, je préfère parler des récits contemporains de la modernité, parce que je n'ose plus dire « voilà ce qui va se passer ». On ne peut plus que travailler sur la façon dont on se raconte ce qui va se passer. C'est-à-dire, au fond, quelle est notre façon de construire ces récits et, au fond, quel est notre univers symbolique lorsqu'on parle du futur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'évidemment, entre ma jeunesse issue de l'immigration italienne due à la pauvreté, donc je suis fils de migrants, d'ailleurs, quand on dit migrants choisis, quand ils sont venus chercher mon grand-père dans les mines de fer pour le faire travailler dans le textile, c'était probablement choisi par ceux qui voulaient l'accueillir, mais pas forcément par celui qui voulait y aller, parce que, évidemment, la faim et la pauvreté, ils étaient 16 enfants sur un lopin de terre en plein milieu de l'Émilie-Romagne, ne leur donnaient aucune chance de pouvoir rester là, sauf à crever de faim. Donc, je suis fils de migrant, et en tant que fils de migrant, j'étais dans l'Eldorado de la science, c'est-à-dire mon père, qui a arrêté les études à 12 ans, alors que mon père lisait Jules Verne, était un spécialiste de Cagliostro, puisqu'il a été muré à Saint-Léo, là où mon père est né, eh bien, mon père avait une culture, et sa croyance, c'était mes gamins et mes filles, ma fille et mes deux fils, feront des études, car c'est le seul moyen qu'ils construisent un monde qui soit meilleur que celui que j'ai connu. Alors, on en est où par rapport à ça aujourd'hui? C'est-à-dire, comment on se raconte cette histoire et comment on la raconte, et finalement, à nos enfants? Est-ce que moi, je peux tenir le même discours à mes enfants? Est-ce que ça a un sens? Et donc, les récits contemporains de la modernité, ça consiste à faire un peu un pas de côté et finalement se dire, lorsqu'on regarde la façon dont on se raconte les histoires, de sortir un peu du dilemme vrai-faux. D'ailleurs, moi, de toute façon, historiquement, de par mon histoire, y compris psychique et mes 3 ans de psychanalyse, j'ai une peur panique des certitudes. C'est comme ça. D'ailleurs, quand je vois des gens se lever et asséner des certitudes, ça me panique. Voilà. Donc, mais ça, c'est une tare psychologique. Donc, je suis très emmerdé avec ça, parce que ça veut dire qu'il y a des travaux en permanence là-dedans, et que quand j'annonce quelque chose, immédiatement, j'annonce le contraire, ce qui peut perdre un peu les gens dans mes ouvrages. Il n'y a qu'une chose à laquelle je ne déroge pas, j'ai fait un 49-3 sur tous les débats parlementaires, cerveau gauche, cerveau droit, sur la question de l'espérance. J'ai décidé d'être espérant. C'est une espèce d'autodictature et vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait du bien. Alors je vais peut-être développer un peu ça, sachant que l'espérance n'est pas l'espoir, autour de l'idée que c'est une question intéressante, les récits contemporains de la modernité, parce que les travaux qui ont été faits en épistémologie, mais pas seulement, sur la question de la science-fiction ont montré qu'en fait Jules Verne est beaucoup plus intervenant qu'on ne pense dans la création du futur. Ça, c'est pas seulement une fiction, puisqu'il structure nos univers symboliques. Il construit ce que les spécialistes appellent une figure fictive du futur. Et d'ailleurs, c'est un terrible piège, ce truc-là, parce que moi aussi, je participe finalement à la création d'une figure fictive. Donc, quand on a fini de dérouler la boule de ficelle, on finit par n'avoir qu'une seule solution, celle de silence. Et vous avez compris que je n'arrive pas à m'y faire. Voilà. Donc, tant pis, je prends le risque, tout en ayant la bonne distance par rapport à ça. Ce qui est plus grave aujourd'hui, et pour moi, c'est une des alertes d'ailleurs de la tentation de génie, qui est une véritable alerte éthique sur la question des technosciences. Ce qui est, mon avis, beaucoup plus dangereux, c'est ce que j'appelle l'émergence d'un nouveau genre littéraire, que sont les romans de science-fictive. Les romans de science-fictive ne sont pas des romans de science-fiction. La science-fiction, elle vous déplace, elle vous met à des millions de kilomètres d'ici ou à des milliers d'années-lumière. La science-fictive, c'est une nouvelle forme littéraire qui consiste à surfer sur la chute de la compétence scientifique, ou en tous les cas la chute de la culture scientifique, qui est globale chez nous. Nous, on se bat à la cato avec une offre d'emploi pléthorique sur certains métiers très techniques et très scientifiques, et une demande quasiment nulle ou très faible des étudiants sur ces domaines-là. On pourra d'ailleurs expliquer pourquoi. Et donc, c'est cette question des romans de science-fictive qui consiste à prendre un fait avéré dans la science et l'extrapoler vers un imaginaire qui s'appuie soi-disant sur des analyses qui le plus souvent sont qualitatives, simplement qualitatives, des extrapolations, eh bien, relève parfois de l'imposture. Par exemple, si on vous dit, nous allons un jour créer un cerveau-machine plus puissant que le cerveau humain, voilà ce qui relève à la fois d'une réalité et d'une imposture. Je serai éventuellement, très à la question, amené à revenir là-dessus. Alors, d'où l'idée de décrire, au fond, cinq grands récits contemporains de la modernité, et vous allez peut-être voir tout de suite comment... Parce que je sentais mon ami Alain Langlacé commencer à se dire « Oh là là, il est en train de partir dans des trucs, j'aurais pas dû l'inviter. Comment on va atterrir ?» Je te rassure, Alain, on finit par atterrir. Parfois même, on s'enfonce un peu dans la piste. Alors, le premier récit contemporain, c'est le récit technoscientifique. Je vais aller très vite dessus, parce qu'il faudrait passer des heures, mais seulement vous faire sentir peut-être quelques éléments, et évidemment vous renvoyer après à la lecture de mes ouvrages, qui permettra de les vendre, en sachant que j'ai cédé tous mes droits à la cato, donc il n'y a pas d'enrichissement personnel. Il faut faire attention avec ces trucs-là en ce moment, et ma femme n'a pas du tout contribué. Alors, la transition technoscientifique en cours, pour essayer de la comprendre et de voir pourquoi nous sommes dans l'inconnaissable. Vous savez que c'est le propre de la complexité, hein, les travaux qui ont été menés sur ce qu'on appelle les systèmes dissipatifs stables, c'est qu'au fond, une approche complètement systémique d'un système complexe fait qu'il est particulièrement imprédictible. C'est-à-dire qu'un signal faible aujourd'hui peut devenir une catastrophe demain. C'est Murray Gell-Mann, le papillon dans son livre « Le quark et le jaguar » montre comment il y a une imprédictibilité dans la complexité qui fait que vous avez des phénomènes de chaos, vous avez des phénomènes d'émergence, et qui fait que je suis assez d'accord sur le fait que, par exemple, concernant les migrations, on peut faire tous les scénarios et leur contraire, et celui qui vous assure avec péremption que ce qui va se passer, c'est ça, méfiez-vous-en. Donc, moi, je ne ferai donc qu'élaborer ces récits. Alors, sur les sciences, pour comprendre un peu ce qui se passe, il faut voir qu'en fait, on est là encore dans une systémique. C'est-à-dire que l'homogénéisation, au fond, du langage des sciences, cette espèce de langage numérique, alors qui n'est pas vraiment un langage, parce que si on commence à se parler en 0 et 1, 1, 1, 0, 0, on mettrait du temps à se comprendre, mais... au-delà de ce langage qui est au fond le mythe de la tour de Babel, hein, moi ce qui me frappe c'est que j'aille à Hong Kong, à Shanghai ou ailleurs, quand on parle science avec les scientifiques, avec un espèce de globiche un peu, on se comprend, c'est-à-dire qu'au fond on a une espèce de langage universel, l'universalisation du langage de la science, qui d'ailleurs a tendance à croire qu'il est en train aussi d'universaliser le réel et de franchir d'ailleurs la frontière du connaissable, de la connaissance et de l'inconnaissable. On voit bien que cette hyperpuissance digitale qui atteint des proportions absolument considérables, sans parler des impostures qu'on est en train de nous vendre comme D-Wave autour de l'ordinateur quantique, on pourrait en parler, hein, qui est une imposture totale, puisque on sait effectivement faire des systèmes à base de qubits quantiques au zéro absolu. On n'a aucune idée. Moi, pour écrire mon quatrième livre, j'ai quand même été voir un paquet de vrais scientifiques. On n'a aucune idée, on n'a même pas la première esquisse d'idée de la façon dont on pourrait programmer ces machines. Hein, voilà. Et quand on sait qu'un iPhone comme ça, c'est un bricolage, hein, c'est pour ça qu'il relève du vivant, parce que l'histoire du vivant, c'est une suite de bricolages. Hein. Quand on voit que c'est un bricolage, c'est-à-dire que quand vous savez que les rayons gamma viennent détruire des connexions extrêmement rapidement, ça ne marche parce qu'on a bricolé les codes correcteurs, et bricolé, de façon d'ailleurs souvent empirique, un certain nombre d'éléments qui permettent de fonctionner. Peu importe, en tous les cas, cette hyperpuissance, elle est déjà considérable. Moi, j'ai commencé ma carrière à 10 000 opérations par seconde, on est à 1 000 milliards d'opérations par seconde. Vous voyez ce que ça donne. Et cette hyperpuissance, elle va venir interagir avec les trois grandes révolutions au début de ce millénaire. Les nanobiotechnologies, évidemment, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on manufacture à l'échelle atomique, hein, c'est-à-dire qu'on fabrique Exemple d'imposture, d'ailleurs, je travaille beaucoup avec mes étudiants là-dessus, enfin une partie des étudiants, pas les 30 000 qui s'intéressent. Une jeune fille me disait, voyez monsieur, ça y est, il y a un laboratoire américain qui vient de montrer qu'il a été capable de fabriquer une chaîne d'acides aminés, donc un petit morceau de gène. Et donc, voyez, on pourra bientôt imprimer l'humain. Bon. Voilà un exemple de manque de culture scientifique, puisque... quand je lui demande si elle sait comment fonctionne une chaîne ADN dans une cellule, les interactions sont d'une complexité, on est là dans l'inconnaissable. Et quand on sait qu'il y a 30 000 milliards de cellules dans le corps humain, voyez un peu, si on commence à s'amuser aux interactions, on est sur factoriel 30 000 milliards, c'est quasiment l'univers. Hein. Donc, voilà, la deuxième, ce sont les neurosciences, avec une explosion absolument faramineuse de la connaissance du fonctionnement intime du cerveau, avec en même temps, les grands neuroscientifiques que j'ai rencontrés m'ont tous dit, cher monsieur, on avance à grands pas, et plus on avance vers la conscience qu'on ne connaît pas grand-chose. C'est-à-dire que le fonctionnement du cerveau, évidemment, est d'une complexité absolument infinie, principe d'incomplétude, hein, de cher à Thierry Magnin. Et enfin, évidemment, la génétique et la génomique, l'épigénétique, qui, en même temps, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de danger derrière tout ça, c'est le but du bouquin, mais en même temps, évidemment, il y a un peu de fantasme là-dessus, et en même temps, il y a évidemment des vrais sujets éthiques qui angoissent d'ailleurs pas que les chrétiens et les catholiques. Hein. Jürgen Habermas est probablement l'un des plus angoissés sur ces questions-là, et il n'y a pas plus agnostique que l'école de Francfort et que Habermas. Alors tout ça, il y a un nouvel entrant avec l'intelligence artificielle, je ne le détaillerai pas, et tout ça, vous allez voir, va faire système et va donc créer des ruptures qui vont être dans l'inédit, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments, des combinaisons qui vont faire exploser des choses complètement inédites, et puis des technologies de rupture comme le big data, comme la réalité virtuelle, l'impression 3D, enfin les blockchains, etc. Je prendrai juste deux exemples pour vous montrer qu'il va être temps quand même qu'on s'en préoccupe, parce que la question qui est clé, d'ailleurs Luc Ferry, je suis pas toujours d'accord sur tout, mais la pose assez bien quand il parle des processus sans sujet. En fait, la vraie question qui va se poser à nous, et c'est pour ça que quand j'ai lu votre document, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, il y a des choses qui manquent complètement. L'enjeu éthique du travail social ne se cantonne pas à la question de savoir si les postiers peuvent faire du travail social ou pas. Ils vont être confrontés demain à des questions absolument redoutables. C'est déjà le cas sur la fin de vie, par exemple. Hein. Je rappelle que nous dépensons toutes les dépenses de santé de la vie, nous les doublons les 18 derniers mois de notre vie. Donc, vous imaginez les questions éthiques qui vont se poser. Je rappelle que par le big data, par exemple, Emmanuel Hirsch, qui est un ami avec qui je travaille souvent, me disait qu'on est capable aujourd'hui de faire des prévisions Alzheimer avec des pourcentages assez fins. Alors, on n'est jamais capable de dire à quelqu'un « vous ferez un Alzheimer ». Par contre, on est capable de lui dire « vous avez 87,3 %». Ce qui ne veut pas dire que vous le ferez, d'ailleurs. Hein. C'est la différence entre la prévision et la prédictibilité. Et donc, à 25 ans, vous imaginez les questions. Ça agit moins 25 ans. Alors, on fait quoi ? On oblige les gens à se faire détecter. Si je me fais détecter, vous imaginez les histoires de famille, les enfants, comment on prévoit ça. Enfin, et donc on voit bien aujourd'hui, et notamment dans le travail social, ça va commencer à rentrer dans le travail social, au sens large du terme, la question des processus sans sujet. Parce que c'est bien ça qui est derrière. Pour vous prendre un exemple, parce que c'est parfois difficile de comprendre ce qu'est un processus sans sujet. Nous sommes en train de fabriquer à la Cato l'immeuble le plus avancé probablement en Europe et au monde, qui est un immeuble dit intelligent, qui va produire à peu près 9% de l'énergie nécessaire. Donc un immeuble producteur d'énergie. Eh bien, on a dû se battre contre nos hypertrophiés de l'hémisphère gauche, qui nous disaient, vous inquiétez pas, l'immeuble est intelligent. Donc, les gens qui seront dedans seront obligés de toute façon de ne pas ouvrir les fenêtres, ne pourront pas augmenter la température, ne pourront pas avoir de l'air frais. Tout ça est pris en compte par l'immeuble intelligent. Et en même temps, il est très fin, l'immeuble intelligent, puisqu'il est capable de prendre en compte aussi des individualités particulières. C'est ça, un processus sans sujet. C'est ce que dit mon ami Dominique Lambert. Ce sont des systèmes qui nous privent de la responsabilité ultime au nom de l'intérêt général. Quand on nous prive de la responsabilité ultime ou non, je ne sais pas quoi, moi, d'une barbarie générale, on peut encore l'entendre. Mais là, c'est au nom de l'intérêt général. C'est pour le bien commun. Enfin, pour les biens communs, d'ailleurs. Après, le bien commun, c'est une autre question. Mais c'est pour l'intérêt général. Et ces processus sans sujet, vous les trouvez partout. Moi, je me demande vraiment, et j'aurais quitté ce monde, mais pourra-t-on être encore obèse demain ? Puisque aujourd'hui, je pourrais déjà, aux États-Unis, recevoir... Je vais au ski dans 15 jours. Hein, je fais du ski alpin, hein, ski... ce qui ne se voit pas forcément, mais je vous assure, je roule très bien sur les noirs, et je peux très bien recevoir demain un mail de ma mutuelle disant « Cher monsieur Georgini, vous avez bien voulu nous communiquer votre séquençage primaire pour obtenir 15% de réduction sur votre mutuelle santé, je rappelle que c'est le cas aux États-Unis, vous avez bien voulu nous communiquer votre microbiote intestinal pour obtenir la même réduction, nous avons observé votre sociogramme au travers de vos échanges internet et des réseaux sociaux, nous avons observé votre nutritiogramme au travers de vos achats et nous avons observé également votre sexogramme et nous vous annonçons comment par l'intermédiaire d'internet et nous vous annonçons que vous avez 43,4% de chances de faire un infarctus dans 15 jours sur les pistes, vous êtes de 20 points décalé par rapport à la moyenne de votre génération, veuillez nous indiquer quelles mesures vous comptez prendre pour réduire le risque et éventuellement nous adresser évidemment un chèque de 500 € qui nous permettra de prendre en compte le sur-risque que vous représentez. C'est à peine une plaisanterie. C'est-à-dire que... absolument. C'est-à-dire que, et donc on voit bien que quand on véhicule un peu facilement la question de l'intérêt général, adossé au big data et à ce qui se prépare, on est sur des sujets éthiques absolument considérables qui vont être au cœur de la question du soin et de la santé. Et je ne vous parle pas des blockchains. Tiens, un exemple intéressant, travail social. La ville de Florence, puisqu'on entend souvent des modèles sur le travail social qui sont plutôt de nature, avec les paradigmes anciens, c'est-à-dire on redistribue la richesse dans la solidarité. La ville de Florence décide de permettre à des personnes précaires, d'ailleurs que voudra dire la précarité demain dans les nouvelles relations emploi-travail, qui sont en train complètement d'être bouleversées, propose à des précaires de s'occuper de personnes âgées. Pour ça, ils vont chercher un vague certificat à la mairie de Florence, qui vérifie qu'ils ne vont pas, a priori, piquer le sac à main de la vieille dame ou du vieux monsieur. Et ils s'occupent de cette personne, et tout ça rentre dans un blockchain, dans une blockchain, c'est-à-dire, vous savez que la blockchain, c'est une forme de notariation, enfin, c'est quasiment un notaire virtuel réparti, puisque le tiers de confiance, salut, est assuré par la communauté, et non pas par un tiers de confiance défini. Et donc, lorsqu'il va passer 15 heures ou 20 heures à aider une personne âgée, c'est rentré dans la blockchain et ça lui donne un droit à tirage lorsqu'il sera plus âgé. Bon, voilà des exemples. D'ailleurs, ça pose la question du tiers de confiance, d'ailleurs, par rapport à cette forme de marché non monétarisé qui est en train de grandir. Tout ça, ça nous amène dans deux récits. Le premier, c'est le récit de la machinisation de l'homme. Comme le disait mon collègue tout à l'heure, moi, je vous ai d'ailleurs très peu machinisé. Si madame est machinisée devant, doublement d'ailleurs, à tel point qu'elle ne m'entend même pas dire que madame est doublement machinisée. Moi, mes étudiants, ils sont complètement machinisés et j'arrive pas à les tenir comme vous, d'ailleurs. Au bout de 5 minutes, ils me disent « Il est faux, votre slide, il n'est pas né en 51, il est né en 50, Vaslavi, tu pourras revoir vos trucs ou je sais pas qui. » Entre parenthèses, vous voyez qu'aujourd'hui, pour prendre juste un exemple, l'holographique vidéodisque qui sort est donc à 4 téra, 4000 milliards de caractères. La bibliothèque François Mitterrand, une fois numérisée, indexée sémantiquement, ce qu'on peut faire, HEC Montréal a indexé complètement sémantiquement sa bibliothèque en 2 ans, c'est 110 téra, une fois compressé, c'est 5 téra. Donc ça veut dire simplement, concrètement, que je dois me préparer à voir arriver mes étudiants avec la bibliothèque François Mitterrand dans leur cartable. La question étant, qu'est-ce qu'ils vont en foutre, mais c'est quand même la... Alors en même temps, avec des agents intelligents qui leur permettent d'envoyer les agents intelligents, non pas, on n'est plus dans l'indexation lexicale maintenant, on n'est plus dans l'hypertexte, on est dans l'indexation sémantique, c'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer les agents intelligents, réaliser des enquêtes, aller étudier en quoi le judaïsme de Spinoza a influencé sa philosophie, et non pas en allant chercher un article là-dessus, c'est-à-dire en allant faire de l'analyse sémantique et produire en interaction avec vous un certain nombre de notes de synthèse et de résumés. Et donc la machinisation de l'homme est en route et vous imaginez les questions que ça peut poser puisque prenez rien que les Google Glass par exemple sur lesquels Google a échoué puisqu'il envisageait 500 millions mais il est en train de redémarrer par le projet Aura aujourd'hui et les nouveaux projets. Je rappelle que les Google Glass, d'ailleurs dans mon troisième livre, le psychanalyste Jacques Arène en parle pas mal, c'est quand même assez redoutable puisque la mise à distance, c'est Michel Serres qui parle bien de ça, la mise à distance des outils permet quand même que ça se voit, c'est-à-dire quand vous êtes dans une conversation, On vous parle, je ne sais pas quoi, moi, de Bourdieu, vous pensez que c'est un joueur du Paris Saint-Germain, vous avez deux solutions, ou bien vous dites c'est qui ce type, ou bien vous plongez dans un mail, on dit tiens, il doit avoir un mail urgent à... auquel il répond, dans la barre Google, vous tapez Bourdieu, et d'un seul coup, vous re-rentrez, traîne un chevalier blanc dans la conversation en disant mais Bourdieu, bien sûr, bon Dieu, qui ne connaît pas Bourdieu ? Et vous pouvez même dire qu'il y a eu un colloque en 82 à Paris, comment éviter Bourdieu, et même d'ailleurs donner des détails. Et les gens sont là, la vache, à quelle culture. Alors vous imaginez, avec les Google Glass, ça ne se verra même pas. C'est-à-dire, alors vous pouvez imaginer des méta-conversations entre des étudiants sur Bourdieu ou sur Spinoza ou sur etc. Alors qu'ils n'y connaissent absolument rien et qui, à la sortie, n'en connaîtront d'ailleurs pas plus. Hein. Donc on voit ce développement de cette espèce de méta-conversation qui peuvent se développer. Ça, c'est la machinisation de l'homme. Et puis vous avez évidemment la contraposée de ça, qui est l'humanisation des machines. Alors ça, ça a posé, je vais y revenir tout de suite, des questions absolument redoutables, puisque l'humanisation des machines, vous voyez tous ces petits robots qui naissent dans les maisons de retraite, vous avez vu l'expérience de Nantes. Moi, j'ai vu à Montréal les premières chambres pour personnes âgées dépendantes, avec des humanoïdes expérimentaux, où on est sur des personnes qui sont... ils n'ont pas le même système que nous, mais en gros, je dirais GIR 2, GIR 3 chez nous, où il n'y a aucune intervention de soignants. Ce ne sont que des humanoïdes. Hein. Et avec des personnes qui vous disent, plaisamment, les humanoïdes sont plus sympathiques que les aides-soignants. Hein. Moi, je préfère avoir affaire aux humanoïdes. Ils sont d'humeur égale, ils ne se fâchent pas. Ils ont une empathie absolument extraordinaire. Ils nous écoutent, etc. Vous voyez, entre parenthèses, je reviendrai tout à l'heure sur la question de l'économie de l'altérité. Vous voyez, entre parenthèses, la question que ça pose. Hein. Moi, j'ai ma mère qui est en maison de retraite. Ça me coûte bien cher tous les mois. Vous l'imaginez, si je l'avais au téléphone, ils disent, écoute, je connais une maison de retraite à 1500 euros au lieu de 3000 qui est tenue par des humanoïdes. Il paraît que c'est plus sympa. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je l'envoie là ? Parce que finalement, l'altérité avec un humanoïde ne sera jamais la même chose qu'une altérité réelle, humaine, humanisée, corporisée. Je veux dire, c'est important aussi qu'une aide-soignante puisse être de mauvaise humeur, parce qu'on parle souvent de la violence faite par les soignants aux personnes âgées. J'aimerais qu'on parle de temps en temps aussi de la violence faite par les personnes âgées aux aides-soignants. La question de l'humanisation des machines va être une question assez redoutable, et la convergence des deux, qui n'est pas la définition de la singularité, c'est la post-humanité, c'est-à-dire c'est l'idée que nous pourrions migrer vers une humanité composée d'une nouvelle espèce que nous pourrions faire naître, hein, lisez Rickersweil, Schmitt et autres, qui serait un hybride entre de la chair et de la technologie, hein, qui permettrait d'ailleurs d'atteindre cette espèce de rêve ancestral, hein, l'épopée de Gilgamesh, hein, qui est un des plus anciens récits, qui est l'accès à la vie éternelle, ce qui sur le plan philosophique est une aberration intégrale, puisque la vie se définit par la non-mort et la mort se définit par la non-vie. Donc on est là sur une forme d'aberration. Et donc c'est les transhumanismes, c'est l'émergence des transhumanismes. À la Cato, on prend ça au sérieux, puisque nous avons le plus grand centre européen aujourd'hui de recherche sur éthique et transhumanisme, hein, 25 chercheurs qui ne font que ça, pas mal financé d'ailleurs par, c'est pas un coup de chapeau à Xavier Bertrand, ce n'est pas d'implication politique, mais la région Hauts-de-France finance à hauteur d'1 million d'euros cette recherche, ce qui n'est pas neutre, ce qui montre que quand même les politiques commencent à se dire « oh là là, il y a quelques sujets derrière ça ». Le deuxième, et rassurez-vous, on aura 35 minutes pour échanger. Le deuxième récit, c'est l'automatisation extrême, qui va poser des questions assez redoutables, hein, et qui va là être au cœur de vos questions sur le travail social. C'est le prix Nobel d'économie qui nous dit « nous sommes en train de migrer de l'efficacité productive vers l'intensité créative, et moi j'ai rajouté relationnelle ». Et ça, je voudrais essayer de vous convaincre que ce n'est pas une question... élitiste ou de je ne sais pas quoi, c'est en route. On a ouvert à la Cato de Lille le plus grand tech shop d'Europe. Le tech shop, je vous rappelle, c'est do it yourself, ce sont les fameux makers aux États-Unis. Et je rappelle que sur les 3 millions de makers qu'il y a aux États-Unis, on nous a dit pendant un bout de temps, oui, c'est les bobos, c'est de la boboisation. Nous, on a rencontré au tech shop de Stanford des jeunes qui se rapprochent plutôt de jeunes non diplômés, plutôt des brouillards créatifs, etc., qui vivent autour du tech shop avec $300 par mois. Ils nous ont emmenés chez eux, je peux vous dire qu'ils vivent très bien. Pourquoi ? Ils fabriquent dans le tech shop et ils échangent. Nous, on appellerait ça du travail au noir. D'accord ? Mais comme la communauté tech shop est particulièrement riche et qu'il y a beaucoup de gens capables de fabriquer beaucoup de choses, eh bien, ils fabriquent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est dans ce que Walter Lippmann avait prévu en 1937, hein, l'économiste américain. On est sur l'effondrement des coûts fixes du capital. C'est pour ça que je souris un peu quand on nous dit qu'on va réinventer l'industrie à l'allemande et qu'on va réindustrialiser et que vous allez voir les emplois qui vont fleurir. C'est-à-dire qu'il paraîtrait que Schumpeter n'est pas mort, la destruction créatrice. Et là aussi, voilà un bel exemple de comment on peut être piégé par les mots. Bien évidemment, Schumpeter n'est pas mort. On va vivre de la destruction créatrice. C'est vrai que 80% du travail n'existe pas aujourd'hui. Mais quand on dit 80% des métiers, on est planté. 80% des emplois, on est planté. Parce que nous, nous sommes dans des représentations où emploi et travail, c'est la même chose. D'ailleurs, essayez dans la rue. Cher monsieur, chère madame, est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce qu'elle comprend, la personne? C'est est-ce que vous avez un emploi? Hein? Et je vous assure qu'il y a énormément et de plus en plus de gens en France qui travaillent alors qu'ils n'ont pas d'emploi. Et je ne parle pas que du travail au noir, je parle aussi des retraités, je parle aussi de plein de personnes comme ça. D'ailleurs, il y a quand même quelques personnes, avouons-le, qui ont un emploi et qui ne travaillent pas forcément. Donc, donc, on voit bien cette transformation, ce déplacement, elle est due à quoi? Il est dû à quoi? Je prends juste un exemple, c'est ce que disait Edmund Fels. Alors ça, c'est pédagogique, c'est pour expliquer ce qu'est le passage de l'efficacité productive à l'intensité créative. Ce qu'il nous dit, Edmund Fels, et moi, ce qui me surprend pour être dans les bords stratégiques de beaucoup d'entreprises, y compris des grandes, c'est que Edmund Fels nous dit, voilà, quand vous regardez en haut à gauche, c'est une râpe à fromage. Qu'est-ce que vous attendez d'une râpe à fromage? C'est qu'elle râpe le fromage. Qu'elle soit la plus solide possible et qu'elle vous coûte le moins cher. C'est le rapport qualité-prix. Donc, ce que vous allez acheter, c'est de l'efficacité productive. D'accord? Il y a un peu de design sur la poignée, mais ce n'est pas grand-chose. Mmh. Et donc là, vous êtes complètement dans l'économie néoclassique, c'est-à-dire avantage comparatif, principe de rareté. Une râpe pas chère et qui râpe et solide, c'est rare. Et puis la productivité liée à l'automatisation des processus de travail dans le secondaire, qui, je rappelle d'ailleurs, hein, je pense qu'il faudrait que nos amis du Cercle des 12 osent commencer à le dire, entre 50 et aujourd'hui, les années 50 et aujourd'hui, nous sommes passés de 70% des emplois salariés dans le secondaire à peine 20% aujourd'hui. Hein, on vient de passer même en dessous des 19% en France. Et à mon avis, ça va continuer de décroître. Alors tout ça a basculé dans le tertiaire. Hein, avec un truc qui est quand même assez admirable, c'est que les économistes ont défini le tertiaire comme n'étant ni le primaire ni le secondaire. Ce qui voulait dire au fond que l'histoire serait finie. Moi, je milite pour qu'on invente le quaternaire. Ça. Qu'est-ce que sera le quaternaire? Alors, on pourra en parler d'ailleurs au travers de vos questions. Et donc, la râpe à fromage, vous allez acheter de l'efficacité productive. En bas à droite, excusez-moi, j'ai choisi une paire de fesses, mais comme mes conférences sont souvent internationales, c'est la figure... Vous la voyez pas, c'est parfait. C'est un dessin de paire de fesses, de dame. Je choisis cette image parce que c'est l'image la plus connue internationalement. Il n'y a pas de problème de culture. Immédiatement, on reconnaît. Ça, c'est un dessin de Picasso, sur un ticket de restaurant qu'il a fait en quelques secondes et qui vaut aujourd'hui 150 000 dollars sur le marché de l'art. Hein. Donc, vous voyez que l'efficacité productive, quand même, excusez-moi, dans la valeur perçue, hein, puisque là, on parle du prix de la valeur perçue, et l'intensité créative, paraît-il, 150 000 dollars. Et donc, qu'est-ce que nous dit Edmund Fels? Il nous dit, au fond, on est parti, il y a 2 millions d'années pour les hominidés, 10 000 ans pour la sédentarisation des chasseurs-cueilleurs, on est parti d'une humanité dont la valeur ajoutée dominante était liée à la force et l'habileté. Si vous n'étiez pas fort et habile en tant que chasseur-cueilleur, vous n'avez aucune chance de nourrir votre famille. Je rappelle que ça a duré un bout de temps, cette affaire-là. Hein. Mon grand-père, qui était mineur dans les mines de fer, ou mon père, qui était marchand de charbon, je peux vous dire que le jour où il a commencé à avoir des problèmes de santé, comme la couverture sociale à l'époque des indépendants, c'est normal. J'avais un oncle qui était très marxiste et disait, après tout, c'est normal, il est dans le secteur lucratif, quelle honte. Et donc, c'était normal qu'il ait pas, qu'il pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Sauf que moi, j'ai connu un père qui a bossé comme une bête, qui n'a pas gagné beaucoup d'argent et qui n'a pas eu beaucoup de protection sociale. Mais il avait fait le choix d'être son propre patron. Quelle horreur dans la société de l'époque. J'ai été aussi, moi, puisque vous avez vu dans la presse, j'ai été notamment très proche de Michel Rocard à la fin de sa vie, mais moi j'ai toujours suivi Michel Rocard et personne d'autre, parce que les autres m'énervaient un peu. Donc voilà, je viens du PSU, je viens de toute cette ère-là, et donc j'ai aucun problème par rapport à ça. Mais on voit bien que l'efficacité productive, c'est la force et l'habileté, qui va être la dominante. D'ailleurs, dans les programmes scolaires, il y a encore avant la guerre, moi, mon frère, on lui a appris à limer et à souder alors qu'il a fait des études supérieures. Ça s'est déplacé vers quoi? À cause de l'automatisation. D'abord, il y a eu l'animal qui, évidemment, a pris le relais, le prolongement du geste humain. Il y a eu la machine à vapeur, le robot. Et aujourd'hui, on va vers une forme d'automatisation intégrale. Hein, aller visiter l'usine d'embouteillage de Cointreau à Angers. 17 millions de bouteilles embouteillées par an. Ils sont 7 à faire tourner l'usine. Hein. Alors après, il y a des ingénieurs, il y a des bureaux d'études. Mais enfin, donc on va probablement la fin de l'automatisation du secondaire. Et donc, il y a eu un déplacement vers une autre valeur humaine caractéristique qui est l'ingéniosité et l'intelligence algorithmique. Parce que la grande imposture même du terme intelligence artificielle, c'est quand vous dites intelligence artificielle, vous ne parlez que d'un segment de l'intelligence, un tout petit segment de l'intelligence. D'ailleurs, je vous rappelle que sur le segment cognitif, ça fait un bout de temps que les machines sont plus puissantes que le cerveau humain. C'est-à-dire essayer de calculer ou de traiter les données avec votre cerveau plus vite que le fait l'ordinateur. Et donc, on voit bien qu'il y a un déplacement vers l'ingéniosité et l'intelligence algorithmique. Or, vers le tertiaire, mais cette partie-là du tertiaire, hein, qui utilise essentiellement ces caractéristiques de l'ingéniosité et de l'intelligence algorithmique, c'est quand même estimé aujourd'hui à entre 60 et 70% des métiers du tertiaire. Hein. Sont en cours d'automatisation. Les machines parlantes, les machines langagères, les hotlines automatiques. Hein, aujourd'hui, vous êtes sur des hotlines, vous en avez marre parce que taper 3, taper 4, KPE, etc. Des machines langagères. Etc. Je n'ai pas compris, veuillez répéter. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, si vous travaillez bien avec votre iPhone, hein, c'est-à-dire si vous apprenez à votre iPhone à reconnaître votre langage, vous pouvez dicter vos SMS avec quasiment très très peu d'erreurs. Hein. Mais il faut avoir passé un peu de temps pour lui apprendre les mots, etc. Et donc, on va vers des machines langagères, des machines sémantiques, qui vont produire un choc de productivité assez considérable dans le tertiaire. Moi, je prends souvent cette image en disant, imaginez qu'il se passe dans le tertiaire ce qui s'est passé dans le secondaire. Allez, quatre fois plus vite, avec les processus d'accélération. Franchement, je suis même plutôt optimiste. C'est 7 millions d'emplois détruits à peu près en 20 ans, 25 ans. Hein. Et donc, ce déplacement dont Fels parle, c'est le déplacement vers l'économie créative qui procède, mais alors, de caractéristiques économiques complètement différentes. L'économie industrielle ou l'économie de produits liés à l'échange, elle est soustractive. Si je vous donne, ou vous vends, d'ailleurs, pas de raison de vous la donner, ma télécommande, je ne l'ai plus. Et vous, vous l'avez. Si nous décidons de faire de la créativité ensemble, ce que nous allons produire à deux va toujours nous appartenir et en même temps est probablement plus que 1 plus 1. Donc l'économie créative et l'économie de la connaissance en général, elle est sommative. Donc elle vient bouleverser tous les modèles de l'économie néoclassique dans les trois grands principes, avantage comparatif, principe de rareté et productivité liée à l'automatisation. Et donc on voit ce déplacement aujourd'hui, toutes les entreprises sont au cœur de ça, on voit ce déplacement vers l'économie créative. Et là, ça va poser un problème de fond, et je vous invite vraiment, parce que je pense que vous êtes au cœur de cette réflexion-là, ça pose d'ailleurs la question du politique, monsieur tout à l'heure il faisait référence, c'est dans la substitution, moi je préfère utiliser le mot falsification, dans la falsification du geste humain par la machine, qui est très ancien, hein, un bout de temps qu'on essaye de substituer, hein. Anna Arendt parle de tentation ancestrale de l'homme d'alléger le fardeau de l'asservissement à la nécessité. Donc, et en plus, maintenant, il y en a qui pensent qu'on pourrait éradiquer les fragilités, éradiquer la maladie et même éradiquer la mort. Vous imaginez la projection du fardeau d'asservissement à la nécessité. Et donc, le travail de nécessité, évidemment, n'a cessé d'être tenté de le réduire. Alors, même à un moment, c'était le propre de l'aristocratie, par exemple. Hein, mais elle faisait la guerre, quand même. Hein, elle ne la faisait pas faire à des drones, comme certains ont l'intention de faire aujourd'hui. Donc, on voit bien ce déplacement. Et à chaque fois qu'on substitue le geste humain par le geste de la machine, on produit deux choses. C'est le cas des humanoïdes dans les maisons de retraite. On améliore le geste, d'un certain point de vue, parce que l'infirmière de Nantes, nous, on a eu quelques cas à la Cato qui ont été absolument dramatiques d'erreurs de prescription médicale. L'infirmière automatisée ne se trompe pas. Deuxièmement, elle est connectée au lit du malade, donc elle a toute une programmation, parce que vous savez qu'à Nantes, l'expérience, et y compris l'infirmière humanoïde, donnait des nouvelles à la personne. Alors, évidemment, elle ne lui disait pas « Excusez-nous, vous ne passerez pas la journée, c'est ce que j'ai vu dans votre dossier médical », mais elle avait toujours une certaine forme d'empathie vis-à-vis de la personne. Donc la personne, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que les sondages qui ont été faits à l'hôpital de Nantes montrent que les gens étaient très satisfaits, voire plus satisfaits de cette relation. Regardez aussi dans les maisons de retraite les premières évaluations des petits robots de compagnie par rapport aux animatrices. Hein. C'est assez redoutable. Or, la question qui va être clé pour notre société, c'est ce que je développe dans La Tentation de Génie, c'est comment notre société, que va décider notre société, comme dirait notre mon ami Patrick Vivray, est-ce qu'on va vers la sous-humanité ou vers la pleine humanité? On est devant une espèce de bifurcation où il va falloir qu'on décide vers quelle humanité nous voulons aller. Et cette question va se poser sur la part d'irréductible par la technologie dans la relation. Car la machine, elle augmente, elle amplifie, elle accélère, elle fait tout ça, mais en même temps, elle réduit l'altérité dans la plupart des cas de figure, soit par des processus sans sujet qui nous volent la responsabilité ultime, soit par l'automatisation au sein de processus sans sujet qui nous imposent, mais aussi qui automatisent et donc qui nous privent de l'altérité. Je prends juste un exemple. J'ai un ami belge qui participe à une expérience qui est faite en Belgique. Ce sont des médecins qui ont installé dans leur salle d'attente des tablettes qui ne sont pas simplement des QCM, ce sont des tablettes sémantiques qui discutent avec vous, pourquoi vous êtes là, quels sont vos symptômes, elle est connectée à votre dossier médical, voilà, et il y en a même, paraît-il, qui vous demandent d'appuyer là ou là, comme si l'auto-examen clinique, ce qui fait beaucoup rire les médecins, était possible, et ainsi de suite. Et le gars rentre dans le cabinet, et là, le médecin, pouf, il tourne son écran, un peu comme quand vous allez chez votre assureur ou chez votre banquier, vous avez un tas d'histogrammes sur le truc, et il vous dit, ben voilà, il vérifie 3-4 trucs, et hop, bring print, les examens à faire, et l'ordonnance. Et puis il dit, mon collègue, c'est formidable, j'ai réussi à réduire à 5 minutes en moyenne la durée des consultations. Alors, la question est assez clé, parce qu'on a quand même le déficit de la sécurité sociale. La question, c'est quelle part d'irréductible, parce que moi, j'aurais préféré qu'il dise à mon collègue, formidable, on a réduit à 5 minutes, maintenant, si on parlait de vous. C'est-à-dire que si on rentrait dans une relation alter-corporalisée, qui consiste à vous regarder d'un point de vue holistique et non pas seulement d'un point de vue technique. Bon, on appelle aujourd'hui la médecine intégrative, par exemple. Mais ça part d'une conviction, qui chez moi est profonde, c'est que ce ne sera jamais la même chose d'être conduit, alors surtout pour moi, d'être conduit par ma femme et d'être conduit par ma Google Car. Voilà. Je ne suis pas contre les Google Car, mais ceux qui nous disent que ça sera la même chose, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, on voit bien les débats aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le dilemme tragique, des Google Cars qui auront des choix tragiques à faire, qui vous sortiront de la responsabilité d'un choix souvent inconscient que vous faites, qui peut tuer des gens pour protéger votre propre famille. Et donc, cette question de la responsabilité ultime, elle est au cœur des questions qui se posent, mais aussi, quelle valeur, et j'aimais bien tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui a introduit la dialectique entre valeur et prix, puisqu'au fond, c'est ce que dit Jorion dans la préface de mon quatrième livre, Paul Jorion, qui d'ailleurs en veut beaucoup à nous les catholiques, même s'il fait partie de l'université catholique, donc vous voyez à quel point nous sommes ouverts, puisqu'il dit que c'est que nous avons eu tort de canoniser Albert le Grand, puisqu'il serait à l'origine de cette confusion entre le prix et la valeur, avec Thomas d'Aquin derrière, parce qu'il serait gouré dans la traduction d'Aristote. Quoi. Vous voyez que ça peut être très dur. Mais en même temps, cette confusion, qui, je rappelle, n'était pas dans la tête des grands économistes, si vous reprenez, y compris Milton Friedman, à qui on fait porter beaucoup de tares, Milton Friedman disait, notamment à la fin de sa vie, qu'il fallait se méfier que la mathématisation du marché n'était pas le marché. Or, aujourd'hui, on a confondu le prix et la valeur. Et ce que dit Jorion, c'est dans un monde qui a confondu le prix et la valeur, comment nous allons faire pour affecter de la valeur à cette part d'irréductible par la technologie que nous voulons affecter à la relation. C'est pour ça que je dis que le défi, c'est le passage à l'économie de la créativité et de l'altérité, c'est-à-dire l'altérité vraie, c'est-à-dire l'économie de l'intensité relationnelle. Et est-ce que le libéralisme qui a renvoyé à la périphérie les questions éthiques. Le propre de l'économie libérale, c'est de dire l'homme, je le considère comme l'homo economicus, c'est-à-dire qu'il fait des choix coût-bénéfice dans l'espace du marché, et je renvoie la question morale, éthique, etc. à la sphère privée, dans les choix que vous faites d'acheter du jambon bio ou pas bio, d'investir dans une société qui utilise les petits gamins en Inde ou pas, c'est renvoyé à la périphérie. La question qui se pose pour moi, c'est est-ce que ce modèle économo-centrique, on revient pour ça, je parle de révolution copernicienne, est-ce qu'il va permettre de relever les défis que nous avons à relever? Est-ce qu'il n'y a pas une révolution copernicienne à saisir qui consiste à mettre l'éthique au cœur et à repousser l'économique à l'extérieur, non pas en tant que système de production de richesse, mais comment on rentre dans la question économique? Et moi, ce qui me rend terriblement espérant, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, et parfois je suis très triste de voir, y compris dans vos milieux, je ne connais pas bien, mais dans certaines personnes qui de temps en temps représentent les milieux, c'est qu'on continue un peu, alors c'est vous qui me direz si c'est minoritaire ou majoritaire, à ostraciser la question de l'entreprise. Or, je peux vous dire que pour être un observateur assez fin, le nombre d'entreprises qui s'engagent sur ces questions, notamment sur l'enjeu climatique, alors immédiatement on dit « mais non, mais vous rigolez, vous vous faites avoir, c'est du, comment on dit, du greenwashing ». C'est du etc. Ils font du social. Vous plaisantez. C'est de la com. Ils font pas vraiment du social. Il faut vraiment se méfier de ces approches parce que c'est en train de bouger très fort. Pour une raison toute simple, c'est que les chefs d'entreprise à Bordeaux, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit il y a une telle crise de sens dans notre société que si je ne suis pas capable d'offrir aux salariés que je cherche à embaucher un environnement où ils ont le sentiment de donner du sens à leur travail, je recrute des mercenaires, je recrute pas des talents. Et ça, c'est de plus en plus dominant. C'est-à-dire qu'il y a une transformation aujourd'hui dans la quête de sens, qui disait l'article du Monde de la semaine dernière, hein, Bac plus sens, qui était remarquable, ouais. Qui était remarquablement bien fait. Je peux vous dire que pour être au contact de mes 30 000 étudiants, et je l'avoue, qui sont très loin des populations avec lesquelles vous travaillez, mais enfin quand même, on a lancé Co-Design ton emploi. Hein, moi, quand je suis arrivé à la Cato, j'ai dit, c'est quoi cet incubateur où il n'y a que des Chanel Vuitton diplômés Bac plus 5 qui sont des incubateurs. D'abord, il ne faut pas incuber les jeunes, il faut d'abord incuber les vieux, parce que c'est eux qui vont avoir des problèmes. Et ensuite, venant de la NPE, j'ai appelé mon copain du Pôle emploi en disant, envoie-moi 12 jeunes, je me fous des diplômes, ils sont les plus éloignés de l'emploi, ce que je veux simplement, c'est qu'ils aient les étoiles dans les yeux. Ils ont un projet. Certains, c'était d'aller livrer des croissants le matin. Le fait de les mettre dans l'incubateur, l'innovation se niche au cœur des rencontres improbables, le fait de les mettre dans l'incubateur, d'assurer la médiation de ça, pour éviter que les riches instruits disent ben, « on va s'occuper des petits pauvres, ça fera notre BA », qu'ils soient dans l'idée qu'il y a une vraie interaction, un co-enrichissement, une co-élaboration des solutions. À chaque fois, on en a sorti 8 par le haut, tu connais l'expérience, on a sorti 8 par le haut sur les 12, on a notre troisième promotion. Donc ces rencontres improbables, cette mixité, cette idée de travailler ensemble sur d'autres modèles, évidemment, est au cœur de ça. Donc aller vers une économie de l'altérité et du sens, c'est probablement plus en route qu'on ne le croit. C'est probablement en train de dépasser le stade de la boboisation sur lequel il y a eu évidemment des études importantes sur les circuits courts, sur les nouvelles formes. Je terminerai par le changement de paradigme de la coopération et la crise du sens. En fait, je ne sais pas si vous connaissez les nuages des tourneaux. Je pense que c'est l'expérience où j'ai vraiment découvert ce qui est en train de bouger dans le monde. Vraiment qu'il fallait que je bouge tous mes modèles, les modèles que j'avais en tête. C'est Langdon Morris, qui est un des papes de l'intelligence collective, hein, à Berkeley aux États-Unis, qui nous a fait observer les nuages des tourneaux. Vous savez que l'accident des tourneaux est plutôt rare, hein, vous en convenez, ça, c'est pas courant de se promener dans la rue, de prendre un tourneau sur la tronche, de dire tiens, il y a eu un accident des tourneaux. L'intelligence collective du nuage des tourneaux, elle est absolument inaccessible. C'est ce qu'on appelle l'holoptisme, c'est-à-dire que chaque étourneau à la fois a une vue à 360 degrés de sa proximité, mais il a aussi une perception du tout. C'est ça, c'est pour ça qu'un nuage d'étourneaux ne se comporte pas comme un essaim de poissons, ou comme un essaim d'abeilles, ou un banc de poissons, ou aussi idiot le marathon de New York. Donc, le nuage d'étourneaux, il a une intelligence de réseau absolument inaccessible. On a fait beaucoup d'études là-dessus. Si on remplace n'importe quel étourneau par un drone que l'on pilote avec une fréquence, il n'y a aucune puissance au monde de calcul qui permet d'atteindre cette intelligence-là, voyez. Donc tous les tenants des bureaux études et méthodes au gouvernement aujourd'hui qui cherchent à maîtriser le nuage par une logique procédurale, etc., est en train de se gourer d'époque. Hein. Nous sommes en train de migrer vers des structures qui relèvent plutôt du vivant. Hein. Lisez Éloge de la métamorphose d'Alain de Vulpian. Moi, ce qui m'a frappé dans le nuage des tourneaux, c'est qu'à un moment, on pourrait le faire ici, mais comme vous avez décidé une organisation supposée sachant, supposée ignorant, qui me va pas mal du tout, on pourrait tenter de faire un nuage. Moi, je me souviens, aux États-Unis, on était une dizaine d'ingénieurs à suivre, enfin, plus que ça à le suivre, mais une dizaine de volontaires pour faire un nuage. Et donc, à l'époque, je souffrais déjà de ce que les gens bien élevés appellent une surcharge staturopondérale. Et donc, j'étais là, et je me souviens à Langdon qui dit « Bon, bah allez-y, je vais mettre de la musique, faites un nuage. Hein. » Donc, je crois que vous avez déjà vu, il y a des systèmes de danse où ils font ça. Hein, bah. Alors, on est là, ils tapent dans les mains, personne n'avance. Alors, on dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il y en a un qui dit « Qui c'est qui prend la tête ?» Alors, on dit « Oui, alors Langdon dit, vous imaginez les étourneaux sur leur fil ?» Qui c'est qui prend la tête aujourd'hui? Vous voyez, donc on se dit, ça n'a pas marché comme ça. Alors après, il nous dit, bon, il faut y aller. Il dit, bon, on va y aller. Allez, vas-y, t'inquiète pas, vas-y. Alors, il tape dans les mains. Et là, mon voisin, qui était d'EDF d'ailleurs, c'est assez marrant, et qui était plutôt en sous-charge. Ah oui. ce qui est un con pour quelqu'un d'EDF. Il me dit, Pierre, je l'assure, l'histoire véridique, il me dit, Pierre, il y a une chaise là devant. Il me dit, tu vas passer à gauche ou à droite de la chaise? Alors Langdon s'arrête et dit, mais pourquoi vous demandez ça à Pierre? Il dit, vous avez vu Pierre et moi, je veux dire, s'il passe à droite, que je pense qu'il passe à gauche, le choc va être violent, surtout pour moi. Hein. Donc voilà. Et Langdon, il dit, vous imaginez les étourneaux sur leur fil à nouveau? Il dit, dis donc, Albert, toi qui es un peu forci sur le grain ces derniers temps, tu vas passer à droite ou à gauche. On est incapable de le faire, le nuage. Incapable. Incapable. Ça a été un pugilat. Parce qu'on a été incapable de lâcher prise. On a été incapable de faire confiance. Hein? Et si je prends l'exemple de mon bâtiment, que je n'ai pas terminé tout à l'heure, on va être au cœur de ce qui est en train de se produire aujourd'hui, selon moi. Les gens qui voulaient me vendre un bâtiment qui allait être intelligent à la place des gens qui allaient l'habiter, ça veut dire qu'ils étaient dans une représentation que Gunther Anders d'ailleurs appelle la honte prométhéenne, c'est-à-dire la honte de soi. Vous ne pouvez, il nous disait, ça ne va pas marcher votre truc. Parce que moi, je voulais un bâtiment et d'autres où l'étudiant, il peut ouvrir les fenêtres. Il peut augmenter la chaleur, il peut baisser la température. Simplement, sur son iPhone, il est informé en permanence des conséquences de ses actes sur l'intérêt général. Ça, c'est une maison, un bâtiment qui va viser la responsabilité et qui va s'appuyer sur ce que Camus disait, il y a plus à admirer chez l'homme qu'à mépriser, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression, je ne suis pas dans la théorie du complot, mais que tout nous pousse à l'inverse. Et d'ailleurs, je rappelle que Gunther Anders a merveilleusement montré comment cette honte de soi, la honte prométhéenne de l'imperfection humaine face à la perfection théorique de la machine, conduit à cette forme d'idolâtration des technosciences. Ce qui est dangereux aujourd'hui, ce n'est pas les technosciences, comme dit Ellul, c'est l'idolation des technosciences. En tant que solution totale et du total au totalitaire, évidemment, il y a pour moi pas très loin. Et donc là, on est sur un vrai sujet. Et en même temps, j'aime beaucoup montrer cette image du troupeau de moutons. Mon prochain livre s'appellera « L'extinction des dirigeants ». Ça va faire le buzz, hein, « L'extinction des dirigeants ». Est-ce que vous avez remarqué qu'un troupeau de moutons qui n'est pas holoptique, hein, un troupeau de moutons, il est en forme essaim, mais enfin quand même, là c'est un troupeau, c'est très proche de ce qui nous arrive. Hein. Le troupeau de moutons, il est en train de foncer dans le ravin, hein, parce qu'il est poursuivi par des loups. Alors on pourrait parler des enjeux climatiques, tout ce qu'on veut, parfois qui peuvent être d'ailleurs fantasmés. Le vrai mystère, c'est pourquoi ils se suicident tous, quoi, quasiment. Oui. Hein. C'est un mystère, c'est un peu la question. Pourquoi l'humanité est en train de se suicider, c'est la question qu'on peut se poser. En fait, ça c'est la vertu du benchmarking. Hein, puisque un troupeau de moutons, il est lancé avec une certaine énergie, et donc il est impossible au troupeau de devant de bifurquer. C'est impossible, il se ferait écraser. C'est comme quand moi je joue au rugby, j'ai fait un marque devant le pack qui m'arrivait dessus, j'ai encore des cicatrices. Donc c'est impossible. Et pourquoi c'est ça? À cause du benchmarking, parce que ceux qui sont derrière courent après ceux qui sont devant parce qu'ils pensent qu'ils sont en avance, et ceux qui sont devant sont sûrs qu'ils sont en avance puisque tout le monde leur court derrière. Ça, c'est ce qu'on appelle le benchmarking. Vous savez, c'est toutes ces communautés, j'espère que vous n'en êtes pas, qui se disent entre elles qu'ils sont bons. Vous savez, voilà. Ah, t'es bon, moi aussi, bah toi t'es bon. Et qui est capable de dire que vous êtes bon? Bah forcément les gens qui font partie de notre métier, on a toujours du mal à se faire challenger par des regards externes. Alors ils font dans le ravin. Il y a juste une vache, vous ne l'avez peut-être pas là, qui essaye de remonter le truc en disant excusez-moi, là. La vache est là. Alors il y a un truc qui est très intéressant, et je terminerai là-dessus, et ça aussi, ça peut interroger aussi votre question sur le travail social. C'est que, alors d'abord, moi j'ai une conviction qui peut être contestée, d'ailleurs notre partenaire Columbia est sur une autre conception, c'est que je pense que nous sommes, que la seule chose qui pourrait nous sauver, c'est une bifurcation. Ça c'est une conviction profonde, dans toutes les dimensions, hein, pas seulement la dimension climatique, y compris la dimension sociale, intercivilisationnelle, la question de l'eau, la question de la démographie. Je peux vous faire, à la Kissinger, je peux vous faire toute la liste des défis. Quand je la fais aux étudiants, après, on a une grosse vente de cordes pour se pendre. Et donc, d'où l'intérêt d'ailleurs d'être espérant. Hein, c'est une vraie question. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'un troupeau de moutons, quand il court dans la plaine, quand il voit arriver un bosquet de forêt, ça c'est démontré dans l'éthologie animale, je pourrais vous donner les références bibliographiques, eh bien c'est la tête qui va infléchir la trajectoire. Ça, vous voyez, un troupeau il court, la tête va voir arriver le bosquet très loin, et donc ils vont infléchir, ils vont le contourner. D'accord ? On sait infléchir par la tête, on ne sait pas bifurquer par la tête. C'est impossible. Comment un troupeau de moutons bifurque ou un nuage d'étourneaux ? Il bifurque par ses périphéries. C'est-à-dire que c'est un groupe de moutons, c'est la théorie du crapaud fou, je ne sais pas, vous connaissez, c'est un groupe de moutons qui, à un moment, on ne sait pas d'ailleurs forcément toujours pourquoi, ne voit pas forcément d'ailleurs leur ravin, mais à un moment, va décider de partir complètement à droite. Il bifurque. Là, il y a trois solutions. La première, il se paume. On a perdu le groupe de moutons. Ça arrive beaucoup dans le travail social. Les mecs qui se paument, voilà. Ils ont décidé de faire leur troupeau à eux, à 5-6 moutons. Bon. Deuxième solution, il se réaligne. Ça aussi, on le voit souvent. Des tentatives de hop, et puis je me réaligne. Et la troisième solution, c'est qu'ils ouvrent suffisamment d'espace au sein du troupeau pour que des moutons suiveurs s'engouffrent dans la brèche. Ce qui diminue la pression des troupeaux de devant, qui peuvent ralentir et bifurquer à leur tour. Nous devons réinventer notre monde dans nos marges. Et là, ça vous concerne grandement. C'est le thème du deuxième et troisième livre, hein, La fulgurante recréation, etc. Et ça s'appuie évidemment sur l'idée que nous sommes en train de sortir Et notre génération a bien du mal avec ça, parce que nous, on a été très structurés mentalement avec l'arbre. Hein, réduire une complication en éléments simples, un organigramme, c'est ça. Hein, comme dit Morin, un Airbus A380, c'est compliqué, c'est pas complexe. Hein, je sais réduire et arriver en bas, j'ai de mon arbre, j'ai le boulon qui tient le train d'atterrissage. Je pars de compliqué, je vais vers une simplification, qui est aussi la base du taylorisme, etc. On va le retrouver dans les organigrammes, on va le trouver dans toutes les visions cartésiennes du réel. Je réduis la complication. La complexité est irréductible. Parce que la complexité, elle relève du mode maillé coopératif qui est là, où là, vous voyez bien, et d'ailleurs les sociologues travaillent beaucoup là-dessus en disant, et ça aussi, ça impacte votre travail, nous passons d'une société où le nœud prime le lien, parce que vous voyez qu'ici, le nœud prime le lien. Si dans une organisation, c'est pas le cas chez vous, hein, je voudrais sortir vivant, mais si vous mettez un parfait imbécile en haut de l'arbre, là-haut, sa capacité de nuisance est quand même assez considérable. Hein. Et d'ailleurs, la structure de ces liens est liée à son statut de nœud, c'est-à-dire son statut de lieu. Donc ici, le nœud prime le lien. Ici, les liens priment le nœud. Or, ce qui est en train de bouger profondément dans la jeunesse, quelle que soit sa typologie sociale, et encore plus dans les typologies sociales que l'on va considérer comme les plus exclues, je dirais d'ailleurs entre parenthèses que les choses pourraient s'inverser, parce qu'il m'arrive assez souvent, bien que les statistiques me trahissent, de voir sortir des Bac+5, Bac+6, dont je me dis ils vont beaucoup plus souffrir dans le monde qui vient que certains jeunes qui sont capables dans les banlieues de craquer des téléphones portables, là où mes ingénieurs ICN sont incapables de le faire. Donc, dans ce mode-là, on est dans le mode maillé coopératif. La grosse différence, c'est que là, le lien prime le nœud. C'est-à-dire, c'est votre capacité à nouer des alliances qui vont définir votre capacité d'influence, qu'on appelle le leadership. Et en plus, ça va être terriblement éphémère. C'est pour ça que tout à l'heure, votre débat sur compétences qualification était intéressant. La qualification, elle vient de ce monde-là. C'est-à-dire, elle vous affecte un statut dans une société de nœuds, avec une hiérarchie d'ailleurs. Je rappelle qu'on pèse les qualifications. Hein, et que ça s'associe au prix d'ailleurs, et au salaire.
Il y a des grilles de motivation. Hein,
à tel point qu'on se demande pourquoi on paye plus cher un ingénieur qu'un chauffagiste à Paris. Je vous assure qu'on trouve plus facilement un ingénieur qu'un chauffagiste à Paris. Hein. Donc, que veut dire le poids de la qualification au regard du marché? Donc, on est dans ce monde-là. Dans ce monde-là, il est complètement éphémère, il est liquide, il est volatile. On est dans le monde de l'alliance. Isaac Getz, l'entreprise libérée. Sauf qu'en même temps, nous, on est bien placés pour savoir que ce monde-là, alors celui-là, il est générateur d'exclusion, mais celui-là aussi. Parce que, comme dit Jacques Arène dans mon troisième livre, la portance sociale et la portance psychique nécessaire pour habiter ce monde-là, qui est un monde éphémère, mondialisé, fait d'alliances inédites permanentes. Parce que dans une entreprise libérée, on va vous demander de nouer des alliances inédites pour produire la performance, qui fait que le problème de la performance vous est renvoyé. Alors qu'ici, la non-performance est renvoyée à ceux qui bâtissent les études et les méthodes et qui sont censés vous former. Ce déplacement brutal que nous sommes en train de vivre, ça ne veut pas dire que ce monde-là n'était pas présent dans celui-là, mais il y a un changement de Gaussienne qui nous fait rentrer dans ce monde-là. Et là, ça veut dire que nous sommes en train de passer du triangle au carré, qu'on le veuille ou non. Et je vous assure, je termine là-dessus. Nous sommes en train de passer du triangle carré. Tous nos systèmes, y compris de santé, de protection sociale, etc., sont centrés sur le triangle. C'est-à-dire, on cherche à bâtir un processus qui se centre sur le bénéficiaire. Le bénéficiaire, contrairement à ce qu'on pense, y compris dans des formes d'exclusion sociale, revendique de façon... La question n'est pas de savoir si c'est légitime ou pas. Revendique de devenir partenaire centré sur le bénéfice attendu. Ça change tout. Moi, mes étudiants n'acceptent plus que le système pédagogique se centre sur l'apprenant. Ils veulent être les partenaires à part entière centrés sur l'apprentissage, de façon parfois complètement illégitime. Moi, j'ai des jeunes de 18 ans qui, devant des profs émérites, lèvent la main. Moi, j'attendais d'avoir 5 DEA avant de le faire, eux, ils lèvent la main. Si c'était pour poser une question, c'est pas grave. Parfois, c'est pour dire « je suis pas d'accord avec vous ». Jeune con, c'est-à-dire, t'as en face de toi un professeur américain. Et ça explose toutes les hiérarchies implicites. Ça, c'est le travail de De Vulpian. C'est extrêmement intéressant. C'est que du coup, ça effondre les hiérarchies implicites, les autorités implicites. L'autorité du savoir, tous experts. L'autorité du talent, tous chanteurs, tous poètes, tous du cinéma. L'autorité même de l'avoir, hein, la hiérarchie des avoirs. Vous avez vu les études récentes qui montrent que l'hédonisme progresse, mais en même temps, une demande de sens dans la consommation qui est sans précédent. Hein, je veux avoir des avoirs qui font sens. Hein. Le désir d'entreprise, ça aussi c'est un chiffre qui devrait vous interpeller, le désir d'entreprise a chuté de 30% ces 5 dernières années chez les jeunes. 30%. Mmh. Le désir d'entreprendre a augmenté de 40%. Ça veut dire quoi? Augmentation du désir d'entreprendre, baisse du désir d'entreprise. C'est assez intéressant. Ça veut dire qu'ils ne veulent plus être dans les systèmes pyramidaux. Ils veulent être dans des réseaux d'alliances, etc. On retrouve là derrière les communautés de résilience économique de Patrick Vivray, etc. Et donc ce triangle au carré, c'est un vrai déplacement. Moi, mes médecins me disent, il y a 30 ans, c'était le cas, ceux de ma génération. Quand on allait chez le médecin, on arrivait avec des symptômes, on sortait avec une maladie. Et d'ailleurs, moi, quand j'avais l'ordonnance, je n'ai même pas encore acheté le premier médicament, j'étais déjà guéri. Bon. Maintenant, les gens y rentrent avec une maladie. Bonjour docteur, je viens vous voir, j'ai un cancer. Attendez, je ne vous ai même pas encore ausculté. Ah, mais je suis allé sur Internet, je suis formel. Et il n'est pas rare que le médecin... Donc la question n'est pas de savoir si c'est légitime. La question est de savoir que c'est de plus en plus, c'est ce que Michel Serres appelle très justement, l'inversion de la présomption d'incompétence qui est en route. Voilà. Donc effondrement des hiérarchies... au travers des questions, je pourrais parler aussi du morcellement des proximités signifiantes. Que veut dire être proche aujourd'hui, c'est une question assez redoutable. Et donc... pour moi, et c'est très fort dans le quatrième ouvrage, la bifurcation de ce qu'on doit dire, si nous sommes capables de générer cette espèce de révolution copernicienne qui consiste à remettre l'éthique au centre et l'économique à l'extérieur, en sachant que je rappelle que l'éthique n'est pas la morale. L'éthique, c'est la mise en conférence des points de vue moraux de façon non jugeante et inclusive. Et donc, cette question-là va être assez redoutable. Voilà. Désolé, j'ai un peu dépassé, mais...
Merci beaucoup, Pierre. Effectivement, on a pris la hauteur, comme vous l'indiquez au départ. Bon, je pense que vous avez sûrement des questions, et peut-être revenir un petit peu effectivement, à l'état de nos réflexions. Oui.
Oui, merci pour cet exposé j'aime beaucoup ce que j'entends un peu comme une affirmation, c'est que vous êtes du côté de l'espérance, qui n'est pas l'espoir. En gros, aussi faire confiance, accepter aller de l'inconnu vers l'inconnaissable, c'est aussi accepter de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout savoir. Et je trouve que cette invitation que vous nous faites à entrer dans cette révolution copernicienne, où je fais un lien entre ce que vous disiez, au fond, le danger, ce n'est pas les technosciences, c'est l'idolâtrie des technosciences. Et je trouve que ce changement un peu de paradigme et de mouvement, où finalement la construction nouvelle va arriver par les marges, suppose aussi un mouvement intérieur je peux l'espérer, en tout cas moi je pense souvent à ça, je trouve qu'on est dans un temps d'humanité où on est encore assez loin de la maturité et que tout ça suppose une avancée dans la maturité humaine et de chacun, de chaque sujet en fait, parce qu'on voit bien que le besoin d'idolâtrie, on voit à travers, c'est vrai que ça c'est un vrai danger. On voit à travers tous les phénomènes d'intégrisme, de radicalisation, etc. Et on voit bien qu'il y a une espèce de quête de sens et de recherche du sens qui repose sur cette terrible angoisse face à la mort auquel l'humain se trouve confronté. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à intégrer les uns et les autres, que ce qui grandit l'autre ou ce qui la réussite de l'autre contribue à la mienne. Mais ça veut dire qu'il faut sortir des jeux de rivalité très infantiles, des jeux de concurrence très infantiles. Et notre secteur, malheureusement, n'échappe absolument pas à ça. Et je le regrette beaucoup. Et on peut, c'est bien là où on a à travailler, nous, dans
l'alliance.
La question de l'intervention sociale. Mais
la question de l'alliance.
Et on le voit aussi quand on travaille avec on se dit, mon Dieu, comment les préparer à grandir en eux-mêmes pour avoir suffisamment de sécurité et prendre en charge l'autre dans son altérité avec toute la dimension d'inconnaissable que cette relation suppose.
Oui, j'ai pas de réponse à ce que vous dites, c'est pas une question. Moi je préfère le terme intériorité, parce que je pense que l'enjeu, c'est l'intériorité. Jacques Arène le décrit très très bien. Sur le reste, qu'on prenne Rosan Vallon ou Morin, parle de la montée en conscience, qui évidemment est indispensable, parce que c'est pas les États. Les États et le politique d'ailleurs sur ces questions-là est hors jeu. Enfin, je pourrais vous expliquer ou vous donner quelques exemples. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à faire. C'est pas la même chose. Et donc, oui, c'est la question de l'intériorité. C'est-à-dire, moi, je raconte toujours que ma mère avait des bibelots partout dans sa maison, et quand je me moquais d'elle, elle me disait, tu sais, mon garçon, parce qu'on m'a toujours appelé mon garçon, c'est ma façon d'aménager mon intérieur. Habiter, c'est aménager son intérieur, en fait. Et donc, comment habiter ce monde avec une intériorité qui n'a pas construit un dedans, qui est très différent du dehors. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est cette espèce de confusion du dedans et du dehors chez beaucoup de jeunes, qui conduit à des pathologies d'ailleurs, hein, Jacques Arène en parle très bien, des pathologies absolument considérables, on a l'impression d'avoir des fois des gens qui n'ont plus de peau. Hein. Oui. Donc la question de l'intériorité est fondamentale, et d'ailleurs elle pose la question aussi de l'exclusion, enfin, quels sont les inclus de l'intériorité et quels sont les exclus de l'intériorité. Donc je suis vraiment assez d'accord, bien d'accord même avec ce que vous dites. On a un enjeu là-dessus. Oui, pardon madame.
Oui, excusez-moi, je suis tout à fait d'accord avec le dessin que vous avez proposé en conclusion, à savoir le passage du triangle au carré. Je pense que d'ailleurs c'est un processus qui est en cours déjà depuis un moment, que ça suscite d'ailleurs des résistances et que par conséquent, la question de l'intervalle, de l'espace entre le triangle et le carré et le mouvement, qui d'ailleurs aura des effets de flux et de reflux. Ça, c'est la question, c'est le champ même de notre travail, le travail social. C'est là que l'on se situe. Or, pour passer du triangle au carré, il faut en avoir envie, et donc il faut déjà se le représenter, et c'est par l'imaginaire. Et la question que je me pose, c'est qu'il n'y a pas d'imaginaire sans une histoire qui se raconte, et je voudrais savoir comment la raconter, où sont les conteurs et comment trouver des conteurs.
Vous avez raison, c'est le travail. Bon, c'est tout le travail sur les récits. D'ailleurs, nous, bon, je ne vais pas détailler ce qu'on fait. Hein. Je rappelle, l'université, on a investi 200 millions d'euros sur 8 ans pour transformer tout cela, et notamment pour permettre aux étudiants... En fait, je dis deux mots quand même de ce qu'on fait à l'université. On est en train de prendre conscience que le déplacement copernicien dans lequel nous sommes fait que le contenu académique, c'est-à-dire que le contenu formel, n'est plus la pierre angulaire de notre métier. Parce qu'il est disponible. Même la compétence, je suis désolé, je raconte toujours, j'ai vécu une transformation fondamentale dans ma vie, j'ai appris à désosser des volailles il y a à peu près 2 mois. Je ne suis pas allé suivre le stage de monsieur Intel. J'ai mis ma tablette sur la table, sur la plateforme, j'ai sacrifié 3 pintades, et maintenant je sais, parce qu'il n'y avait pas qu'une vidéo. Il y a aujourd'hui des serious games qui en plus prennent en compte vos erreurs, ne vous répètent pas toujours la même chose, mais prennent en compte en vous montrant le geste. Il y aura bientôt des caméras d'ailleurs qui regarderont votre geste, elles analyseront et vous diront voilà où vous avez fauté. Donc quand on nous dit il va nous rester la compétence, c'est pas vrai. La compétence au sens de la compétence technique aujourd'hui, même la compétence relationnelle, il y a des serious games aujourd'hui qui sont beaucoup utilisés dans les entreprises, qui apprennent aux caissières ou aux autres l'empathie, etc. Simplement, ils leur apprennent l'empathie dans sa phase formelle exprimée. La question évidemment du déplacement intérieur, ce que vous connaissez certainement aussi bien que moi, l'école de Palo Alto, tous les changements de type 1, vous focalisez pas là-dessus. Dans 20 ans, les changements de type 1 seront produits que par les technologies. Tous les changements de type 2, c'est-à-dire qui relèvent d'une modification de sa vision du monde, ne peuvent pas se faire en dehors de l'altérité réelle, c'est-à-dire de la relation physique corporalisée interactive. Donc nous, on a dit, on va se déplacer là-dessus, et donc on va travailler sur l'expérience étudiant. Hein? Ce que l'université, moi je voudrais mettre un C, cité de l'universel, c'est-à-dire comment on va faire en sorte que nos étudiants soient dans une cité de l'universel où ils peuvent prendre des risques, co-travailler en interdisciplinarité, expérimenter, démontrer, fabriquer eux-mêmes. D'accord. Regardez de très près la révolution des tech shops, même s'ils ont fait faillite aux États-Unis, ils sont en train de redémarrer. Je vous rappelle que dans un tech shop, moi j'ai vu des jeunes, notamment de Co-Design Ton Emploi, un jeune qui allait dans le tech shop, passionné par le bois, il a fabriqué, je pourrais vous montrer des photos, des sacs à main à base de bois de récupération, il a été aidé par les coachs du tech shop. Aujourd'hui, il développe son entreprise et je peux vous dire que ça commence à bien démarrer. C'est un jeune qui n'a aucun diplôme, c'est-à-dire qui était juste passionné par le bois. Simplement, jusqu'à maintenant, il taillait dans son sous-sol, dans sa cave, 3-4 machins. Maintenant, il commence à rentrer dans quasiment la création d'entreprise. Donc, le do-it-yourself, tous ces marchés de la créativité, ils ont un sens que si vous êtes capable de les mettre en narration. Et c'est pour ça que les espaces créatifs qu'on ouvre, on est en train d'ouvrir un hangar créatif de 3000 m² où les étudiants vont aller la tête, la main et le cœur. C'est-à-dire vont aller sculpter du Ciporex, etc., avant de se mettre sur les machines numériques pour que la tête passe par la main. Hein. Donc voilà, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais vous avez complètement raison. Et du coup, ce qui devient formateur, ben c'est l'autonarration, c'est-à-dire la capacité de se raconter, parce qu'il n'y a pas un plus merveilleux système d'apprentissage que la mise en narration. À partir du moment où je suis capable de raconter ce que j'ai appris, ce qui m'est arrivé, en quoi ça me questionne. Aujourd'hui, nous sommes à 40% de cours renversés à la Cato. Or, le cours renversé, il sort du paradigme classique où je vous injecte de la connaissance formelle, etc. Et après, vous faites comme vous pouvez pour produire du sens dans l'action. On inverse le truc. C'est-à-dire que vous êtes dans l'action. Et quand vous êtes dans l'action, vous vous racontez une histoire. Je suis en train de concevoir un truc, un machin, un device, un produit, un service. Et en plus, je suis capable de le prototyper. C'est-à-dire que je suis capable d'en avoir une représentation physique concrète et de le travailler avec d'autres. Et de partager cette représentation. Qui n'est pas le cas de l'inverse. Quand je construis des plans, etc., je ne suis pas capable de partager la représentation. Voilà. Donc oui, la narration est évidemment fondamentale.
Il y a peut-être un pas de lettre.
L'économie créative est-elle source de dictature et quel contre-pouvoir ?
C'est une question qui est intéressante. Mais là encore, c'est mon côté espérant. Je crois qu'il faut toujours prendre en compte que les ressources de l'humain face aux tentatives... je dirais, d'influence massive, sont absolument inépuisables. Je rappelle toujours que Goebbels s'est inspiré du fils de Freud, d'ailleurs, sur ses théories, pour monter le ministère de la propagande, et on a eu la plus vaste manipulation collective de l'histoire. Il n'y avait ni Internet, ni Google, tout ça. Bon, et les expériences qui ont été faites, par exemple, à une époque, vous savez, l'installation d'images subliminales, par exemple, dans les films, vous savez, on mettait une image de coca, la rétine était incapable de la fixer, par contre le cerveau la fixait. Et quand on mettait deux salles en parallèle, et une avec le coca et l'autre sans, à l'entracte, on observait que ceux qui avaient eu les images de coca consommaient plus de coca. Et là, on a commencé à dire, ça y est, on rentre dans la manipulation des cerveaux. D'ailleurs, aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Les grandes puissances militaires mondiales considèrent aujourd'hui que les territoires à conquérir ne sont plus les territoires physiques, mais les territoires mentaux. Oui. D'où le travail sur les nudges, sur ce qu'on appelle le neuromarketing, par exemple, qui est interdit en France. Mais en même temps, ce que montrent, y compris les neurosciences, c'est que le cerveau a une plasticité telle que très vite, il sait se protéger. Et quand on recommence l'expérience plusieurs fois, il y a une érosion de son efficacité. Donc, arrêtons aussi. Il y a des scénarios catastrophes. Je ne suis pas en train de dire tout ça va bien se passer, vous inquiétez pas. C'est évident qu'il y a des scénarios catastrophes. Mais en même temps, ne désespérons pas complètement de cette capacité humaine de réagir. Et au fond, on voit bien, y compris dans les grandes dictatures, alors parfois ça prend une génération, deux générations, mais il y a cette espèce de retour à des fondamentaux qui sont peut-être d'ailleurs... on parle beaucoup aujourd'hui du logiciel commun, parce que nous on est dans les débats avec Mireille et d'autres sur la question des droits de l'homme. C'est vrai que la question, y compris dans la remise en cause aujourd'hui des conventions de Genève, elle tourne autour des... A-t-on un logiciel commun ? Ou est-ce que c'est le logiciel occidental basé sur les valeurs humanistes et en gros la tradition grecque de la philosophie, en passant par le christianisme, etc. Est-ce que c'est un logiciel universel ? Ça, c'est une putain de question, excusez-moi l'expression. Et moi, je pense qu'il y a un logiciel universel, dont je ne pense pas du tout, puisque moi, je ne suis pas un autocentré catholique classique, ça, je ne suis pas du tout en train de dire que nous détenons la vérité universelle, mais il y a un logiciel universel qui est au fond au cœur d'un processus d'humanisation, pour peu qu'on se mette à le regarder dans la durée. Je veux dire, quand même, plus aucun pays au monde ne peut considérer qu'on peut se manger entre nous, par exemple. Il y a de moins en moins de pays qui considèrent que l'inceste est chose de banal. Voilà. Donc il y a un mouvement de fond et il y a probablement un logiciel commun. Moi qui me promène quand même beaucoup à l'échelle internationale, j'ai quelqu'un de la maison qui est là, qui travaille énormément à l'international, je repère quand même que très souvent, on trouve, y compris en Chine et ailleurs, pour peu qu'on y regarde vraiment, il y a quand même un logiciel commun. Voilà. Et après, c'est la traduction de ce logiciel commun en normes de droit ou en normes éthiques qui est plus compliquée. Et d'ailleurs, je trouve que très souvent, nous qui commençons à bien connaître la Chine, puisqu'on a un institut de prospective internationale qui va pas mal là-bas, on dit beaucoup de conneries aussi sur la Chine. La Chine est multiple, est diverse. Elle est dans une conscience écologique probablement beaucoup plus développée que nous. Oui, pour des raisons simples, c'est que de toute façon, pour eux, c'est une question de vie ou de mort, ils le voient tout de suite. Une question de survie, voilà. Donc, je suis d'accord, il y a des vrais dangers. Il y a les dangers aussi de la dictature de la créativité. Mais n'oubliez pas que moi, je vous dis qu'il ne faut pas oublier que la créativité, c'est aussi... franchement, il y a des diplômés à Bac plus 6. Je ne vais pas faire mon basiste anciennement PSU. Mais je m'émerveille de voir que la créativité n'est pas forcément liée au diplôme. Et ça, c'est une chance pour plein de gens qui, du coup, se retrouvent à nouveau avec une chance. Mmh. On le voit dans les tech shops, mais pas seulement, ouais. avec une chance de faire des choses. Alors, je suis en train de dire que c'est la solution idéale. Mais on voit naître des talents absolument incroyables, y compris à des endroits où on ne les attend pas. Dans les marges. Oui.
Dans les marges.
Malgré Christine, oui.
Bien sûr. Bien sûr.
En évidence là, à travers les tech shops, le do it yourself avec l'auto-narration, je trouve que c'est un retour à. On a tellement clivé théorie et pratique, je veux dire qu'on a des gens, enfin, moi je me souviens être allé à l'école dans mon auberge natale avec des jeunes qui n'arrivaient pas au certificat d'études mais qui avaient une intelligence, je me souviens d'un copain qui a monté un garage et qui était extraordinaire quoi, d'intelligence, mais là il y avait une espèce de mépris.
Bien sûr.
Malheureusement encore.
On a tellement qu'il faut
aujourd'hui.
Voilà. Et puis, je me posais la question par rapport à ce workshop et do it yourself avec l'autonarration. Autant je peux comprendre en effet ce développement par rapport à la matière, à la transformation de la matière, etc. Je me dis, si je transpose dans notre secteur de l'intervention sociale, de la relation éducative, etc., comment accompagner des futurs professionnels aujourd'hui?
C'est ça.
Dans ce processus-là, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut partir de
mettant dans l'action,
c'est-à-dire, ils ont déjà capitalisé à partir de leur existence, hein, y compris dans leur enfance, leur adolescence, etc., pour leur faire appréhender ces questions de la relation, de l'accompagnement et de l'altérité, parce que pour l'instant, on est quand même un peu dans des enseignements un peu académiques, enfin, voilà, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose.
Ben, je peux rebondir très. Ce qui me frappe, et même en disant bien que j'ai bien connu ces milieux, je les connais beaucoup moins bien maintenant, sauf au travers de nos institutions, etc. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est vrai pour tout le monde d'ailleurs, y compris pour moi, c'est le pire qui arrive. Et j'essaie de me battre contre ça et par rapport à moi-même. Et le jour où je pense que j'aurai baissé les bras, je prendrai ma retraite. Le pire qui peut nous arriver, c'est d'être les conservateurs de nos propres innovations. Et nous sommes tous assujettis à cette maladie dangereuse, parce que dès que nous ne sortons plus de nos cadres de référence, dès que nous ne stimulons plus les rencontres improbables, je parle des rencontres improbables, je pense que dans le public de vos professionnels, il y a plein d'improbables, mais la rencontre improbable, quand j'entendais tout à l'heure les débats sur la poste, sur je ne sais pas quoi, les rencontres improbables, ça allait au-devant. Je prends juste un exemple, parce que monsieur voulait peut-être s'exprimer au fond. Moi, quand on met le tech shop en place, le plus grand tech shop d'Europe, les profs de droit nous disent « Ah, c'est bien, c'est sympa ce que vous faites, mais ça concerne les écoles d'ingénieurs. » Parce que nous, on travaille en droit. Et des gens de bonne volonté, des gens bien, qui font des cours inversés. Et puis un jour, on dit « Bah, on va, ça peut peut-être vous intéresser d'aller faire un saut. » Bon. Bah ouais, pour voir. Mais on ne voit pas en quoi on serait concerné. Donc ils y vont. Et là, on les met en activité, ils essayent, ils voient les trucs, ils se racontent les choses, ils rencontrent des makers, et j'ai deux profs de droit qui viennent de décider de monter une expérience, ils font fabriquer à leurs étudiants, mais fabriquer, parce que vous savez qu'on a, les neurosciences ont montré le lien incroyable étroit qu'il y a entre la main et le cerveau, hein. Ils font fabriquer aux étudiants un jeu de société dont le but est d'apprendre à ceux qui vont jouer les fondamentaux du droit qu'ils sont censés apprendre. C'est-à-dire qu'ils deviennent apprenants en ce sens qu'ils deviennent apprenants au sens réel du terme, c'est-à-dire qu'ils deviennent en apprentissage pour les autres. Il n'est pas impossible d'ailleurs que personne ne joue jamais à leur jeu. Eh bien écoutez, venez les voir, quand vous regardez les étudiants en amphi qui poussent des soupirs, qui sont sur leur tablette, qui font autre chose, dont la première question est de savoir qu'est-ce qu'il y aura comme question à l'examen pour que je puisse avoir le 10. En plus, pour les maintenir dans les amphis, on leur dit les questions qu'il y aura à l'examen, vous ne pourrez pas y répondre si vous n'étiez pas dans l'amphi.
Oui, c'est ça.
Avec de la haute valeur ajoutée pédagogique, genre quelle était la couleur de la cravate du prof qui faisait cours vendredi. Donc, vous les mettez dans le tech shop, c'est incroyable. Parce qu'ils sont dans la main, ils conçoivent un jeu de société, ils sont dans la co-élaboration, et ils produisent ça. Donc, or aujourd'hui, notre grand défi. Et c'est pour moi le point essentiel, c'est les rencontres improbables, mais c'est aussi la coélaboration. Nous savons collaborer, nous ne savons pas coélaborer. Comment on passe dans la coélaboration? C'est extrêmement compliqué.
Manuel, oui. Tu avais...
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pourtant, on est rattrapé par un principe de réalité. Je prendrai un exemple qui est très dur. qui est celui d'une enquête assez importante qu'a fait l'Éducation nationale il y a peu de temps, moins de 5 ans, sur la discrimination par le diplôme et sur le fait qu'aujourd'hui, le diplôme en France, diplôme de formation initiale, donc son baccalauréat, son diplôme universitaire, le fait de sortir de telle ou telle école, et notamment des écoles de commerce ou d'ingénieurs, donc HEC, ESSEC, ces classements au trébuchet, au millimètre, est plus discriminant qu'il y a 30 ans. Et donc par rapport, voilà, on s'est beaucoup moqué du Japon, par exemple, et des pays asiatiques, où on savait qu'à 9 ans, 11 ans, 12 ans, celui qui termine, enfin qui est à ce niveau-là maintenant, 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après, dans sa carrière, on louait des systèmes type américains où on dit on peut toujours avoir l'espoir par le sport, par ceci, par cela, et notamment cette fameuse idée qu'il faut avoir fait 2 ou 3 fois faillite et qu'on commence à être écouté ou autre. Mais nous, le curseur a bougé et il a bougé dans le mauvais sens. Et on a d'un côté ces fameux 100 000 exclus en fin de troisième, on un peu plus maintenant. Et puis à côté de ça, on a toute une classe d'âge dans un certain, je dirais, niveau social, qui sait que aujourd'hui, pour réussir, c'est 1 an, voire sa vie, ailleurs qu'en France. Bon, on voit un phénomène de démultiplication incroyable où toute une classe d'âge est en train de dire qu'il faut partir ailleurs, il n'y a même plus à se poser la question. C'est plus le fait d'être bilingue anglais ou autre. C'est-à-dire, si on n'a pas été en Hong Kong, si on n'a pas été en Afrique du Sud, à Londres, un truc, bon, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est tout de même un principe de réalité qui est terrible et qui fait que bien qu'il y ait ces rencontres improbables, bien qu'il y ait cette créativité non liée au diplôme, ce que vous venez de décrire juste à la fin dans les amphios, c'est tout de même quelque chose qui a empiré et qui a en plus généré encore plus d'angoisse chez les parents. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes entre voilà, ce qu'on sait vouloir avoir et une réalité qui est une réalité très dure, qui est qu'aujourd'hui, avec en plus, et j'en terminerai là, un dernier phénomène, qui a commencé d'ailleurs dans les grands corps de l'État, qui est qu'on adore maintenant la double expérience, la double diplomation, c'est-à-dire que le Graal, c'est NHEC, c'est ESSEC Polytechnique, enfin voilà, donc on en a rajouté une couche par rapport à ça.
Alors, je suis vraiment complètement d'accord avec ça, et j'espère qu'il n'y a pas de malentendu dans mon propos. Ce que je propose, c'est pas de baisser les bras sur la question de l'éducation, bien au contraire, parce que je pense que, par contre, je souhaiterais, peut-être que le ministre actuel est en train de le faire, qu'on focalise beaucoup plus sur les fondamentaux, c'est-à-dire lire, écrire, parce qu'au fond, le grand risque que l'on a aujourd'hui, et nous on le voit, y compris dans l'enseignement supérieur, c'est qu'on a des niveaux master qui ne parlent plus français. Et je ne vous parle pas de l'accent circonflexe sur le verbe être, hein. Moi, je vous parle des contresens, des faux sens, de la richesse du vocabulaire, etc. Or, la richesse d'une langue, c'est la richesse d'une civilisation. C'est apprendre la nuance, etc. Je ne vais pas vous faire l'article. Donc, c'est vraiment pas de malentendu. Je pense qu'il faut faire un effort, surtout en France, sans précédent sur ces questions. Simplement, ce que je dis... Et là, comme me disait mon prédécesseur, il est très possible que je me trompe, puisque je disais que j'avais peur des certitudes. Donc, c'est peut-être du même ressort que Internet. Mais si on admet un moment qu'on est sur un phénomène double de surmondialisation et de démondialisation, ce que je crois, dans la surmondialisation, je suis d'accord avec vous, dans la surmondialisation qui est complètement schumpeterienne, c'est-à-dire qui est à la fois de la destruction créatrice et en même temps, d'ailleurs je ferai remarquer que Schumpeter dit 2 choses. Il dit qu'il y a destruction créatrice et il dit qu'il y a concentration capitalistique. Là, alors là, aucun problème. Tous ceux qui jouent dans cette cour-là, il faut du diplôme, ça reste incroyablement discriminant. Quoique, regardez l'école 42, regardez quelques mécanismes dans la Silicon Valley, etc. Mais là, je pourrais être d'accord que ça reste, et notamment en France, extrêmement discriminant. Sauf que je suis désolé, et là je suis en désaccord avec un certain nombre de mes confrères, je pense que ce n'est pas la surmondialisation qui constituera la majorité des emplois de demain. En tous les cas, la majorité du travail. La majorité du travail. Et si on admet par, aujourd'hui dans mon 3e livre où je parle de l'effondrement des coûts fixes, pour l'instant je n'ai pas été contesté, ça va venir. Mais si l'effondrement des coûts fixes se produit, et si on a une vraie relocalisation d'une société qui deviendrait moins distributive, mais plus collaborative, Je prends toujours l'exemple de quelques. Enfin, prenez l'exemple d'un certain nombre d'expériences au Danemark ou ailleurs, d'initiatives urbaines pour trouver des écosystèmes résilients. Mmh. Regardez ce qui s'est passé dans certaines communautés en Espagne, en Grèce, etc. Il peut y avoir des alternatives, avec d'ailleurs la crainte de passer de la communauté au communautarisme aussi. Hein, je ne dis pas que c'est merveilleux comme modèle. Mais en même temps, des processus de démondialisation qui, contrairement à ce qu'on dit, je me semble-t-il, où on pense qu'ils vont se produire dans le travail social, dans le travail santé à faible valeur ajoutée techno-scientifique, je dis c'est une connerie, les tech shops à haute valeur ajoutée scientifique procèdent de la démondialisation et d'un do-it-yourself à l'échelle locale. Nous, on est très près du Père Nébresse et de Tony Melotto, je pense que vous connaissez Gawad Galinga, il a sauvé 2 millions de personnes de la faim en créant des villages en économie circulaire basée sur la récupération. C'est très high-tech, ces villages. Il nous expliquait récemment que les imprimantes 3D qu'il a reçues lui a permis de réparer des motoculteurs qui lui avaient été envoyés, qui, une fois qu'une pièce était tombée en panne, il ne pouvait plus les utiliser. Il a remis des communautés en autonomie sur une base toute simple, c'est que la dignité commence quand on est capable de loger, de nourrir sa famille. Il a sauvé des millions de personnes. Son principe, c'est qu'il achetait des hectares de terre dont personne ne voulait. Il a commencé par la récupération dans les déchetteries, etc. Ensuite, il a fait appel aux entreprises du monde entier. Moi, j'envoie 60 étudiants par an à Gawad Galinga, qui sont des ingénieurs agronomes, des ingénieurs agriculture, des ingénieurs industrie, qui vont bénévolement travailler dans ces villages pour constituer une expérience. Et ces villages, aujourd'hui, sont en train de mettre l'eau courante, etc. Alors, ça nous rappelle un peu les westerns. On peut leur demander à quand le shérif et les diligences. Mais en tous les cas, ça marche. Hein, ça marche. Ils ont une monnaie locale qui fonctionne, etc. Et donc, ces communautés-là, qui avant, d'ailleurs, entre parenthèses, moi, puisqu'on parle de Calais, j'avais dit, c'est, enfin, pourquoi est-on infoutu d'inventer une économie de la migration ? Ça ne veut pas dire qu'on va les cantonner dans des villages de type Gawad Galinga, mais j'avais dit à mon ami Jérôme Vignon, qui était chargé de mission de l'Europe là-dessus, de dire, va voir Gawad Galinga. Il y a probablement là des alternatives en créant. On a besoin probablement d'inventer l'économie de la migration. Parce que ces gens-là, même s'ils ne sont pas là très longtemps, ils ont un certain nombre de talents, ils ont des capacités de production économique, etc. Il faudrait juste que l'on change notre façon de voir quels sont les modèles économiques. Voilà.
Il y en a une, et il y en a même une qui s'était mise en place progressivement.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Alors avec des conditions sanitaires, etc., ce qui n'est pas le cas à Gawad Galinga.
C'est
parce que...
hein?
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on aurait pu, nous, il y a eu très peu d'économistes d'ailleurs qui se sont penchés. On aurait mis quelques économistes pratiques pour observer ce qui se passe, comment améliorer les mécanismes, comment les articuler, créer une monnaie locale. Enfin, il y aurait pu y avoir un vrai travail.
Bon. Oui, Anne, tu voulais...
Effectivement, merci infiniment de cet échange et de votre introduction qui rentre dans le domaine de la science, qui est très lointaine de nos contenus de formation, qui est très lointaine de nos établissements. Et j'ai un espoir, et on est tout à fait prêt, je suis tout à fait prête à conduire la révolution copernicienne et à aller dans le...
Elle a commencé.
il n'en reste pas moins qu'en 2018, aujourd'hui, dans nos établissements de formation, on a un petit peu de difficulté à s'ouvrir des altérités d'autres disciplines, et en particulier les disciplines scientifiques. Et je me disais que, à la faveur de l'évolution de nos diplômes là, qui sont en mouvement aujourd'hui, et d'une nouvelle relation à l'université, il allait peut-être falloir qu'on se penche sur une relation avec l'université dans ses champs scientifiques, pour que ça vienne alimenter nos disciplines très lettrées.
Prenons en main. Parce que je trouve que c'est une expérience. Alors, on va pas avoir le temps de faire l'expérience, mais c'est une expérience redoutable. C'est Nella Young, une Canadienne, qui a monté l'expérience. J'ai en face de moi, je sais pas combien vous êtes, 30. J'ai en face de moi 30 à la Cato. J'ai fait ça X fois. 30 professeurs de très haut niveau, des spécialistes de la complexité, des mathématiques, etc. À la fac que tu connais bien, la FGES. Et ils me disent. C'est quoi, là, toutes vos histoires un peu fumeuses, là, le co-machin, la co-élaboration, l'intelligence collective, là, toutes ces conneries, tout ça. Pourriez nous expliquer la différence entre la collaboration et la co-élaboration ? Voilà. Alors, je vous fais juste faire très rapidement un petit exercice. Vous imaginez dans un rectangle 30 points. Ça va, jusque-là ? Donc un point est caractérisé par X et par Y. Ça va encore ? Abscisse ordonnée. On va tirer au sort pour chaque point, on va lui tirer au sort deux autres points parmi les 30 au hasard, qu'on va lui associer formellement. Donc on a un premier point, on tire deux points. On passe au deuxième, on retire deux points. Simplement, on fait un tirage sans retrait. C'est-à-dire que quand on tire les deux autres points, on peut retirer un point qu'on a déjà tiré avant. D'accord ? Et on va faire ça 30 fois. Donc chaque point a à la fois deux points qui lui sont associés, et lui, il a associé un autre point. D'accord ? Et on va vous demander de bâtir un algorithme, intelligence algorithmique, un algorithme qui fait que vous faites converger le système en générant un mouvement brownien. Vous faites converger le système de sorte que chaque point soit à la tête d'un triangle isocèle avec les deux points qui lui sont associés. Même Villani ne résout pas ça. C'est l'un des problèmes les plus complexes. Parce que vous imaginez, vous avez un point, il faut que les deux autres points soient triangle isocèle, mais lui, il est associé à d'autres. Donc, donc tout bouge. Voilà. 30 cerveaux hyper puissants. Vous savez, les gens des bureaux études et méthodes. 30 cerveaux ou élaborateurs de normes et de procédures, 30 cerveaux hyper puissants, en une heure, n'arrivent même pas à esquisser l'algorithme. D'ailleurs, souvent, ils font une pyramide, ce qui est faux, puisque la pyramide marche s'il y a retrait. S'il y a non-retrait, vous pouvez. Bon. Vous faites lever les 30 personnes. Vous pouvez faire l'exercice avec vos professionnels. Vous faites lever les 30 personnes. Vous dégagez les chaises. Vous leur dites, vous mettez-vous en chaos, chacun va choisir au hasard des yeux deux personnes auxquelles il va s'associer. Donc moi, je dis, tiens, je vais m'associer avec monsieur, puis avec madame, ou avec madame, et avec monsieur. Vous vous associez avec d'autres. Et quand je tape dans les mains, vous bougez tous pour faire en sorte que chacun soit à la tête d'un triangle isocèle avec les deux autres. Eh bien, en général, on converge entre 1 minute 30 et 1 minute 40. Vous pouvez faire l'exercice. Parce que d'abord, on a mobilisé la tête, le cœur et les mains, et surtout, parce qu'on a produit un processus d'intelligence collective basé sur ce qu'on appelle l'holoptisme. Or, le monde aujourd'hui est en train de se l'optiser. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Nous prenons conscience chaque jour que nous sommes porteurs d'universel dans chacun de nos actes. Hein? Même quand je lave les poireaux sous le robinet, ma femme, elle vient me couper en disant qu'il faut apprendre aux petites filles à respecter l'eau. Je dis que si tu viens m'emmerder, il y a de l'eau dans le Nord autant qu'on veut. On est porteur d'une part d'universel à chaque fois qu'on agit. C'est ça la montée en conscience. Et ça ouvre les solutions. Qui peuvent peut-être nous faire gagner en 1 minute 40 ce que la pression. Alors évidemment, il y a un contre-argument, je termine là-dessus, c'est la base de l'économie d'ailleurs, c'est comme ça que j'enseigne d'ailleurs les fondamentaux de l'économie et de la monnaie, c'est la base de l'économie, c'est que si vous avez un passager clandestin, c'est-à-dire quelqu'un qui ne joue jamais le jeu, et qui fait en sorte de ne jamais être pris, d'accord, vous ne convergez jamais. Et ça, c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu de la confiance, c'est l'enjeu pour les communautés de détecter les passagers clandestins. Merci.
Une aphoris.
Du côté de l'Unaphoris. Un acteur de l'économie sociale et solidaire.
Une aphoris.
Sur le trottoir d'à côté.
La web radio de l'intervention sociale.
Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale.
Une aphoris.
Sur le trottoir d'à côté.